Bonjour, bonsoir. Alors, bonsoir pour ceux qui nous suivent en direct. Bonjour pour ceux qui demain matin se lèveront avec le Flip Podcast réévalué par notre cher ami Christophe Dubarry. Et écoutez, courage si vous êtes dans les transports en commun. Hein, on connaît la galère à Paris et dans les autres villes. Donc, on serre les petits points, on est bien fort avec vous. Et on se retrouve, comme il y a trois semaines, pour parler NBA. Hein, le meilleur championnat au monde, quand même, on peut se le dire. Et ce soir, on est avec non pas trois intervenants, comme d'habitude, mais quatre. On a réussi à arracher quelqu'un de son sport préféré, qui est le rugby, pour l'entraîner vers un vrai sport, un vrai championnat un peu intéressant avec nous pour en discuter ce soir. Alors, bon, on va passer hein, les fameux Derek Geranium et Tony Parquette qui sont toujours avec moi, mes snipers, mes saucisses préférées. Mais surtout, bonjour, bonsoir, bienvenue, mon cher Ticket. Mais tu es revenu à nouveau à Barbecue Basket. Comment ça va?
Écoute, très bien. Donc, je me présente rapidement. Terry Kaufman, TK. Je suis l'américain de ce groupe d'amis qui part de NBA aujourd'hui. Donc, je suis aussi, j'ai pack de potes qui m'ont podcast sur le rugby. Donc, j'ai eu le plaisir déjà d'être sur Radio Magaz pour parler un peu de rugby. Et ça me fait grand plaisir aussi de parler de NBA ce soir avec vous. Il faut dire aussi, je suis un tout petit peu un touriste, hein, dans le sens que mon vrai amour, c'est quand même le foot américain. Et après, c'était du rugby. Mais il faut dire que le NBA, c'était tout ma jeunesse aussi, comme j'ai grandi aux États-Unis, ma première 25 ans là-bas. Et comme j'habitais North Carolina, aussi, bien sûr, il y a UNC, j'habitais à Chapel Hill, juste à côté, il y a Duke, il y avait Wake Forest. Donc le basket, franchement, c'est vraiment magnifique.
Des petites équipes, hein, bien
des
sûr.
Des petites équipes, ouais, t'imagines, ouais,
voilà. C'est ça. Très petites universités.
Ouais. Petites universités.
Donc c'est plaisir, merci pour l'invite, plaisir d'être là.
Ah ben, c'est nous. Mais alors, est-ce que tu t'es remis de ta post-dépression, Coupe du Monde, tournoi destination? Est-ce que tu peux regarder à nouveau du sport de façon calme, je veux dire avec du plaisir, tu vois?
Oui, c'est fait. Il faut dire que c'était un peu juste cette signation des deux, trois premiers matchs quand même. Les trois premiers matchs étaient très difficiles, mais on est bien sortis. On finit deuxième. On finit deuxième et aussi plutôt avec une énergie à la fin qui est plutôt bonne, avec le sourire. Donc, ça, c'est important.
Bon, je suis assez dans tout mood. On a repris un petit peu plus de plaisir à regarder du rugby sur cette fin de tournoi, mais voilà. Mais bon. Arrêtons de parler de ballon ovale parce que
finir deuxième alors que tu fais match nul contre l'Italie, c'était quand même pas gagné.
Voilà, on est d'accord. Mais arrêtons de parler de ballon ovale. On va se concentrer sur le plus beau championnat du monde, la NBA, ce soir. Et c'est ce qu'on avait dit sur la dernière émission. On va faire un peu une sorte d'émission de bilan sur l'Est et l'Ouest parce que il reste plus que 10 matchs. On a à peu près les playoffs qui commencent à se dessiner et aussi les play-ins. Donc, on ose, on va lancer des saucisses ce soir, on va être polémique, on va oser dire des choses, que l'eau est tiède, le ciel est bleu et la mer est mouillée. Donc, on va parler un peu de nos équipes positives, enfin, de nos bonnes surprises et de nos déceptions de cette année. On va faire déjà un premier bilan. Et ce qu'on fera dans la prochaine émission, j'ose un peu déjà l'avancer, une fois que les play-in seront faits, on osera faire, on va dire, nos play-offs, nos play-offs chacun pour essayer de savoir si on est des losers magnifiques et qu'on à chaque fois qu'on se tente au niveau de nos pronostics, forcément. On commence? On est parti, messieurs?
On est parti.
Allez. On va parler de l'Ouest. Pour une fois, on va commencer par l'Ouest parce que il n'y a pas de raison. Et chacun, on a une équipe plutôt surprenante, enfin sur laquelle on a une bonne surprise et une équipe qui commence par qui nous laisse un petit arrière-goût dans la bouche. Alors on va aller, Tony, tu veux nous parler de, on va parler d'équipe positive. On va commencer par le positif.
On commence par le bon, très bien. Moi, j'ai envie de parler des Rockets, hors la série sur laquelle ils sont, parce que si vous ne le saviez pas, les Rockets sont sur 10 victoires d'affilée. Et en fait, moi j'avais j'avais juste envie de parler en fait en général déjà de l'impact positif de l'arrivée d'Ime Udoka sur ce groupe qui était en galère sur les trois dernières années, où je crois que je sais même pas s'ils ont passé les 20 victoires ou à peine peut-être une fois. Donc déjà juste la progression de l'équipe à noter, avec évidemment les bonnes signatures à droite à gauche de vétérans comme ça, mais aussi la progression d'un mec comme Alperen Sengun, qui pour moi aurait dû être All-Star, hein, clairement. Et qui là, en fait, malgré sa blessure, bah, les Rockets en fait continuent de grimper et sont très gentiment bien en train de renifler dans le slip des Warriors, dans le sillage d'un Jalen Green, d'un Jalen Michael Jordan Green, pardon. Mmh. Parce que le mec, il est, depuis l'absence d'Alperen Sengun, il a 31 points de moyenne. Alors que au début, j'attends de voir ce que ça va donner quand les deux joueront ensemble, mais force est de constater pour l'instant là qu'en tout cas qu'en l'absence d'Alperen Sengun, Jalen Green a forcément eu plus de shoots, plus la balle en main, et en fait il est en train de porter cette équipe sur ses épaules, bon, avec les 2-3 vétérans évidemment et le bel effectif qui est à côté de lui. Mais rien que déjà leur victoire contre OKC hier, SGA aussi, mais franchement, elle est à noter, 37 points, Jalen Green, son match, il est incroyable, mais j'ai envie de dire, depuis joueur de la semaine pour la première fois la semaine dernière, pour moi, il postule déjà clairement à être joueur du mois de mars, et l'année dernière, il avait fait un peu le même truc, en fin de saison, pareil, il s'était réveillé, il avait envoyé du sale, et là, en fait, dans son sillage, les Rockets peuvent arracher une place en play-in. Quand tu vois le déroulé de leur saison, où le début était monstrueux, puis il y a eu un vrai, vrai ventre mou, période très creuse de leur côté. Là, les 10 victoires d'affilée et une potentielle 10e place, elle est belle. Je pense que ce sera un bon bilan de saison s'ils y arrivent, et pour mieux se lancer l'année prochaine. Donc, moi, je leur souhaite d'aller arracher une 10e place aux Warriors, hein, même si, désolé, hein, mais ce sera pour perdre contre les Lakers en play-in. Hein.
Mais est-ce que tu... est-ce qu'on va dire un peu le... Parce qu'en fait, ça s'est monté depuis pas très très longtemps. Est-ce que l'inexpérience de cette équipe, est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir quand même aller gratter cette 10e place au niveau des Warriors? Moi, je pense qu'il va manquer peut-être un peu d'expérience, un peu de grinta sur la fin.
Je vois ce que tu veux dire. Ça s'entend complètement là où, évidemment, les Warriors ont l'XP x 1000. Par contre, j'ai pas envie de. Je pense pas qu'on peut se permettre de sous-estimer la série sur laquelle ils sont.
Non, je te dis pas de sous-estimer, mais la pression va venir sur les 10 derniers matchs. Quelque part, le fait d'arriver comme ça un peu sur la fin, c'est quelque chose, c'est une sorte de bonus. Et comme tu dis, en fait, effectivement, ça prépare la saison prochaine aussi. C'est ce qui est intéressant pour les Rockets.
Pour moi, ils sont jeunes. Tu sais, ces équipes jeunes un peu insouciantes et tout. Moi, franchement, j'y crois, surtout que dans 4 matchs, ils jouent les Warriors. Et ce match va être très intéressant. Et je pense que clairement, il faut. Bon, j'irai pas me mettre devant parce que j'ai envie de dormir la nuit, mais je pense que demain, j'irai bien me mater un bon résumé, quoi.
Oui, je suis d'accord avec toi. Après, face aux Warriors et les Warriors qui se mettent aussi un peu sur une série au niveau des équipes de Floridiennes, qui ils ont fait l'Orlando et Miami, des gens comme Steph Curry qui se mettent un peu en mode un peu playoff, même si c'est trop tôt pour eux, et quelque part ça va. Après, le problème c'est que pour les play-in, donc voilà, j'espère pour le. Je suis pas forcément très très fan de Houston, mais ça serait quelque chose effectivement de où ils peuvent engranger de l'expérience. Et effectivement, pour eux, cette saison, ça serait un peu la cerise, ce cherry on the cake, comme on pourrait dire.
Exactement.
Outre-Atlantique, n'est-il pas piqué?
Exact.
Mon anglais est bon, mon américain est bon, l'accent.
Est-ce que cette expression existe en américain d'ailleurs?
Cherry on the cake, yeah, sure. Yeah.
Ouais, parce qu'il y a des fois. On fait des traductions littérales.
Oui. Voilà, exactement. C'est traduit du bourguignon directement en américain, et là, ça peut être moche.
Ça, ça peut piquer.
Bon, exactement.
Non, mais par contre, c'est, c'était aussi pour répondre, est-ce que finalement les Rockets peuvent le faire? Et c'est pas aussi pour minimiser la série de 10 victoires, parce que c'est jamais anodin de gagner 10 fois. Comme on l'a vu avec les Raptors, c'est pas anodin de perdre 12 fois d'affilée. Mais ça, c'est pour dans une demi-heure. On va dire que dans les gros, sur les 10, ils ont gagné Sacramento et OKC hier. Sinon, le reste, c'était quand même pas Jojo. C'était vraiment le bottom de la ligue. Donc, il faut prendre les victoires. Mais là où ils ont quand même un désavantage sur Golden State, qui va en prendre pour son grade dans pas très très longtemps, d'ici quelques minutes. ils ont quand même ils sont on va dire dans le top 10 des calendriers les plus compliqués, parce que ils font quand même Dallas deux fois, que je reprenne la bonne ligne, ils font les Wolves une fois, ils font les Clippers une fois, ils font à nouveau ils font Orlando, ils font Miami et le match contre justement les Golden State Warriors, comme tu l'avais mentionné. Finalement, t'as trois matchs plus faciles, c'est Portland et Utah deux fois. Alors que le calendrier des Warriors, il est quand même plus accessible. On va dire que en gros, ils rencontrent Dallas deux fois. Donc Dallas sera un juge de paix pour les deux. Il leur permettra ou non peut-être de passer. Y aura-t-il une fraternité texane?
Bah, moi, je pense pas, mais bon.
Je pense pas non plus. Mais...
Parce que là, Dallas aussi, tu vois, il joue quelque chose. Donc,
c'est ça. Et en fait, c'est de manière plus globale sur l'Ouest. Tu as eu raison, Richard, de commencer par cette conférence. Parce que, en fait, c'est le wild, 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 wild west. Là, c'est du wild de puissance 12, parce que, en fait, tout le monde a quelque chose à jouer quasiment, jusqu'aux Rockets, d'ailleurs. Tout le monde est en positif en nombre de victoires à l'ouest, jusqu'aux Rockets.
Et ce qui est très intéressant aussi, ce qui est très, très intéressant aussi au niveau de Houston, c'est aussi au niveau de leur salary cap, en fait. C'est la 21e équipe, en fait, au niveau du salary cap. Ils sont à 154 millions, 155, quasiment 155. Ils sont en fait en dessous de la salary cap. Et pour construire l'année prochaine, on a beau dire ce qu'on veut, mais ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant, parce qu'il y a des équipes, en fait, qui ont fait péter le plafond de verre. On en reparlera. Pour ceux qui ne voient pas la vidéo, on va parler des Warriors. Et c'est aussi, en fait, des choses qui sont à prendre en compte, parce que, outre la gestion des effectifs de cette saison et des résultats, c'est aussi des choses, en fait, qui doivent tourner au niveau des GM. Et qui vont décider, en fait, du futur de ces clubs-là, quoi.
Ils sont sûrement déjà en train de bosser dessus.
Ouais. Parce que je vais vérifier l'ICN. Je crois d'ailleurs que le salaire le plus élevé, c'est Fred VanVleet. Et je me demande s'il n'est pas fin de contrat là cet été.
Donc, Fred VanVleet, ils viennent de le signer.
Ils l'ont signé. Ah oui, donc il a été prolongé.
Juste avant, je trouve que Tony il a bien parlé. Hein, maintenant, tu me donnes envie de mieux connaître cette équipe. Et si tout se passe bien, j'aimerais bien juste immédiatement les remplacer avec Sacramento. Tu vois, Sacramento, c'est une équipe que je ne connais pas du tout, qui ne m'intéresse pas. Désolé. Parce que... Mais c'est franchement une équipe que, même historiquement, je ne sais pas qui a joué à Sacramento. Tu vois, quoi, peut-être Chris Webber dans l'époque, tu vois. Mais franchement, c'est une équipe que je ne connais pas du tout. Et donc, si on pouvait juste remplacer les deux, parce qu'au niveau de storytelling, j'ai envie de voir les Warriors contre les Lakers dans les 9-10, tu vois, ce match-là, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir, the Mavericks, jouer pour être en sixième. Phoenix, ça m'intéresse aussi. Mais Sacramento, j'ai pas de feeling pour cette équipe. Donc, si on peut juste, tiens, je te le souhaite, qu'on remplace Sacramento par Houston.
Ah, en fait, Sacramento, ils sont quand même une belle saison. Et quelqu'un qui pour moi, aurait quand même dû aller au All-Star Game et remettre un petit peu de laurier sur ce bonhomme, c'est Domantas Sabonis, qui est quand même exceptionnel. C'est un gars qui a fait valider son 59e double-double de la saison et qui a déjà fait 25...
C'est le record, du coup.
25 triple-double de la saison. Enfin, c'est...
Non, franchement,
un peu de respect aussi sur le bonhomme. Mais et on en revient sur la même chose, c'est que...
C'est quelqu'un qui est très très sous-coté.
Moi, je dirais pas très très sous-coté, non. Je suis pas, parce qu'en fait, en saison régulière, je le trouve monstrueux, mais pour l'instant, en play-off, il est moyen.
Bah, on le voit pas souvent non plus.
Ouais, mais tu vois, le peu qu'on l'a vu avec Indiana et même l'année dernière contre les Warriors, genre, ne le respecte pas, ils laissent de l'espace et en fait, ils étaient clairement occupés par De'Aaron Fox qui était injouable et. Moi, Domantas Sabonis, oui, je te rejoins rapide, comme ça on passera à la suite, mais il doit aller au All-Star, tout ça, etc. Saison régulière très solide, le mec, c'est un double-double ambulant, mais j'attends de voir en play-off. Tu vois. Donc, après, je comprends l'analyse de TK, de toute façon, parce que les Kings, c'est une franchise de losers, donc bon, on revient au même, quoi. Mais...
Ouais, bah, c'est...
Moi, je les verrais bien au play-in, tu sais pourquoi? Parce que comme ça, tu sais, ils se font taper par les Suns et après ils se mangent les Lakers. Et on sait comment c'est les Kings Lakers, du coup ça me ferait rien. De bien les envoyer aux oubliettes, la vitesse.
Non, mais, et surtout, c'est que Sacramento peut clairement glisser. Parce que eux aussi, d'après toujours Tankathon, petit site que je vous recommande, ils ont le 4e calendrier pour eux le pire.
Ouais. De toute façon, ils font une saison bizarre en vrai. Ils gagnent les matchs qu'ils doivent pas gagner, ils perdent les matchs qu'ils doivent gagner. Enfin bref, c'est. Non, mais là, c'est bien, ça va être bien, bien drôle cette fin de saison et bien animé, je pense.
Donc,
mon petit Derek, toi, si tu voulais nous parler d'une équipe positive à l'Ouest, ce serait laquelle?
Bah, comment passer sous silence OKC, qui est quand même qui a validé son top 3, où ça va se tirer la bourre avec Denver et Minnesota jusqu'à la fin de saison. D'ailleurs, je ne sais pas si l'un d'entre nous a pris Minnesota, mais c'est pareil. C'est quand même une équipe un peu coup de cœur où tu pensais que ça pouvait mal se passer avec la blessure de Karl Anthony Towns. Et en fait, pas du tout. Il y a certaines franchises. Hein,
non, mais ils ont Michael Jordan dans leur équipe.
Ouais, Anthony Edwards, c'est monstrueux. Bon, même si dans le top 10 du jour dans NBA Extra, ils ont mis son action où le mec, il fait des.
Il fait 6 000 feintes avant de tirer.
6 000 feintes. Bon, sauf qu'en Europe ou en FIBA, il y a marché. Hein. Mais bon, ça, c'est autre chose. Comme dirait Chris Singleton, c'était Dancing Feet. Hein. C'était. c'est bon, bah, bref, c'est pour ça qu'on aime la NBA bon. Aussi. Quoi.
Qui a le 23e, quand même, la 23e masse salariale, 151 millions, et qui peuvent encore en plus. Là, ils ont quand même un effectif que je trouve, effectivement, comme tu le dis, très intéressant. Avec alors s'il n'y avait pas notre français national, une sorte un peu de futur All-Star aussi, mais une sorte d'extraterrestre, mais c'est OK, ici c'est un peu l'équipe surprise, même plus que surprise. C'est je sais pas toi comment tu l'as, c'est quelque chose qui ne se voyait pas forcément venir aussi vite, quoi.
Bah ça se goupille très 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 bien, ça tourne extrêmement bien. Ils ont quand même, ouais, comme tu l'as dit, Chet Holmgren, qui malheureusement pour lui, il y a un alien qui a débarqué l'été dernier. On en a déjà parlé sur l'émission précédente.
Il avait qu'à pas se blesser, il aurait été rookie de l'année dernière.
C'est ça. Donc qui fait une superbe saison. Les Lugansdorf et bien sûr Shai Gilgeous-Alexander. Enfin, ça va se tirer la bourre avec Jokic, hein. Toujours pareil, parce que Jokic est quand même monstrueux, mais voilà, c'est. Tu parlais de la masse salariale. Aujourd'hui, Shai n'est que à 33-34 millions de dollars la saison. Je pense que dans pas longtemps, ils vont essayer de lui faire signer un petit contrat max. D'un seul coup, la masse salariale va prendre 20 ou 30 millions dans la tronche.
Oui, mais ils ont travaillé pour pouvoir se permettre ça, quoi. C'est aussi intéressant.
Mais voilà, mais ils ont quand même aussi des autres qui vont prendre aussi. Chet Holmgren, lui, il est encore bon.
Il va prendre son extension max.
Mais tu as des Josh Giddey, etc., qui eux aussi aspireront à prendre un petit peu plus. Les Jalen Williams, c'est tout ça, c'est des mecs qui vont prendre. Mais en tout cas, ça tourne extrêmement bien. Alors, c'est constant sur la saison. Est-ce que, même si ça termine premier ou deuxième, hein, parce qu'il y a tellement peu d'écart avec les autres, hein, parce qu'on le rappelle qu'aujourd'hui, donc il reste à peu près 9 ou 10 matchs, Denver est premier, mais Minnesota est deuxième à un demi-match, égalité avec Oklahoma, et je pense que Minnesota doit être devant au tie-breaker, parce que c'est comme ça qu'on on différencie le goal average particulier, enfin, en confrontation directe. Donc voilà, c'est vraiment une extrêmement bonne saison. Alors, on peut dire que c'est jeune, mais avec ce qu'ils ont montré, même si tu termines dans les 2-3 premiers, si tu te fais sortir au premier tour contre les grognards qui vont être là, on va dire entre la 6e, 7e et 8e place, ça sera quand même une déception, même s'ils sont là quand même pour apprendre. Bon, sachant qu'OKC, même s'ils commencent à en avoir un petit peu moins, mais à l'époque c'était un running gag avec leur nombre de pics de draft dans tous les sens. Il y en a un petit peu moins. Ils ont pu s'enrichir comme ça. À la trade deadline, ils ont quand même récupéré Gordon Hayward, qui amène de l'expérience dans cette jeune équipe. Donc pour moi, c'est minimum demi de conf, mais sur 7 matchs avec une équipe aussi régulière, aussi impressionnante à la fois en défense qu'en attaque, où ça peut prendre feu avec Shai Gilgeous qui peut te mettre facilement 40 ou 50 points dans le match et être bien aidé par les autres. Ça peut voir assez haut, OK, ici. En tout cas, c'est toujours distrayant de les voir jouer, ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les équipes.
Tiquet.
Je ne suis pas sûr si vous avez vu, mais il y avait quelque chose qui circulait l'autre jour par rapport à UNC, pardon, je parle de mes Tar Heels de Chapel Hill. Ils ont presque le même âge que OKC, en fait. UNC, c'est 22 ans, .2, et je pense que OKC, c'est 22 ans, .6. Donc, tu parles de jeunes, c'est incroyable qu'une équipe universitaire a presque le même âge qu'une équipe pro. Ça, c'est dingue, ouais. Mais c'est tout à leur honneur. Je suis allé, pour me préparer, aller regarder des anciens drafts. Ils ont quatre choix de draft depuis 2-3 ans qui sont juste fantastiques. Donc bravo à eux. Comme tu disais, le prochain étape, ça va être un peu chaud parce que comme ils sont même en troisième, ils sont normalement face à, si aujourd'hui c'est les playoffs, ils sont face à Dallas Mavericks quoi dans le premier tour. Et franchement, je les vois pas passer malheureusement pour eux parce que je pense que Lucas il a des choses à dire cette année quand même. Il a montré ça avec tous les points qu'il a marqués. Mais équipe super intéressante à voir et chaque fois je dis ah bon ils sont troisième ah bon et mais c'est vraiment à leur honneur et je trouve ça chouette d'avoir une équipe qui donne envie de les regarder.
Ouais, c'est un jeu très très plaisant et très plein de peps quoi, une équipe jeune qui a pas peur de ce qu'il y a en face et qui propose quand même du jeu et c'est ça qui est assez intéressant même si c'est pas mes équipes préférées. Moi, j'ai juste parlé un petit peu de minutes des Nuggets, des champions en titre. Bon, ça paraît, on va se dire, bah oui, mais bon, ils ont quasiment pas bougé depuis l'année dernière. Ils ont fait un début de saison qui n'était pas forcément extraordinaire. Mais on sait que les playoffs, c'est 2 mois de saison en plus. On sait que ça amène quand même à peu près un quart de match en plus que ceux qui sont tapés simplement le championnat. Moi qui suis supporter des Warriors, quand les Warriors ont gagné leur championnat face aux Celtics, Je pensais vraiment qu'ils allaient être capables de faire le back-to-back. En fait, je me suis vite aperçu qu'ils étaient complètement rincés. Ce qui était super intéressant au niveau des Nuggets cette année, c'est qu'en fait, ils ont pris leur temps. Ils ne se sont vraiment pas affolés. Et en plus, comme on a un Américain qui connaît un petit peu le sport américain, je comparais un peu cette équipe à une voiture de NASCAR, une course de NASCAR. Ils se sont foutus dans le peloton. Ils ne se sont pas montrés. Ils ont fait leur travail. On sent qu'en fait, ils se sont repréparés physiquement tout au long de la saison. Et quand arrive la fin de saison, et comme une fin de course de NASCAR, le but, c'est de remonter, c'est de se mettre en quelque part dans les premières lignes pour pouvoir attaquer le sprint final à fond. C'est ce qu'ils ont commencé à faire, je trouve. Jokic, moi, je trouve qu'il est en train de faire encore une saison taille patron. Personne l'a... Enfin, il nous habitue tellement à l'exceptionnel. C'est pareil, c'est des joueurs. En fait, on se rend pas compte parce qu'on les voit jouer. Il y a 80 matchs dans une saison et on se dit mais c'est pas possible. Mais il n'y a jamais trop de baisse de rythme. C'est toujours de l'excellent au minimum. Et je trouve que l'équipe qui s'est bien construite a encore faim. On sent qu'il y a. C'est ça, c'est qu'ils ont pas fini leur cycle. On sent qu'ils en veulent encore. Quoi. Et c'est pareil. Comme le disait Tiquet, une équipe qui a été championne à peu près 28 ans de moyenne d'âge. Là, cette année, ils ont 29 ans de moyenne d'âge. Ils sont dans une sorte de prime où ils ont emmagasiné énormément d'expérience l'année dernière. Et là, cette saison, ça a l'air de bien se remettre. Donc, attention. Moi, je trouve ça vraiment très, très impressionnant. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais...
Après, tu disais qu'ils étaient, ils étaient cachés dans le peloton. Ils ont toujours été top 3 toute la saison. Et ce qui est à l'ouest, c'est quand même pas mal.
Mais est-ce qu'on en a vraiment fait des gorges chaudes
parce qu'ils ont poursuivi sur leur lancée. Et en fait, à part peut-être dans le microcosme des journalistes américains. Qui sont apparemment, ou même certains anciens joueurs, qui sont un peu chafouins de voir les Européens ou les non-Américains performer en NBA.
Hein, voilà, nous lance pas
dessus. Saucisse d'Américains, c'est honteux, monsieur.
Je dis rien. Mais non, ce truc-là, je pense que c'est pas un vrai. C'est pas.
Coucou, Gilbert Arenas.
Je pense que c'est un ou deux mecs qui a dit ça, mais c'est. Ils sont un peu jaloux en fait.
Après, ça pourrait presque faire l'objet d'un hors-série sur là-dessus, mais voilà. Je pense qu'aux États-Unis, non, mais même de manière plus globale, aux États-Unis, ils sont en train de se poser un peu la question de la formation, est-ce de pas remettre aussi un petit peu en cause le modèle universitaire et G-League.
Le G-League, c'est fini à la fin de cette année. Hein.
Donc, tu vois, même au niveau universitaire, parce que finalement. Les gars, c'est tout de suite dans la performance, c'est gagner des matchs. Et il y a des fois, ils oublient l'aspect un peu formation sur les fondamentaux du basket, ce que finalement les étrangers apportent. Parce que je ne suis pas sûr aujourd'hui, en université américaine, de voir un Tim Duncan. C'était monsieur fondamental et je ne sais pas.
Pour moi, ce n'est pas du tout... C'est pas de tout universitaire. Universitaire, ça va me donner un cadre, ça va donner un coach, un vrai coach. En fait, c'est très, très jeune. Le problème, c'est qu'ils commencent à 12, 13 ans d'être sur des équipes qui s'appellent AAU. Moi, je suis pas expert, hein, mais c'est ce que moi j'ai. En fait, c'est marrant parce que NBA, j'écoute plus de podcasts NBA que j'écoute de podcasts rugby, en fait, parce que c'est tellement sympa à suivre, en fait. Mais c'est intéressant c'est plutôt vraiment aux jeunes avant l'université, en fait. C'est là où le problème est aux États-Unis, apparemment. Mais je suis pas spécialiste dans le matière, mais pour moi, c'est plutôt que, en fait, le problème, c'est qu'ils ont des jeunes qui jouent énormément de matchs, ils jouent chacun pour soi, parce que il faut être noté par des universités, pour être pris par une université, il faut avoir 20 points par match et 10 rebonds, donc tout le monde joue pour soi, donc c'est pas des gens qui ont appris à jouer ensemble, parce que le AAU, c'est fait pas forcément pour gagner, parce que minimum, quand tu joues, gagner en équipe, c'est fait pour être présenté. Donc, pour être un peu plus clair, si tu joues pour ton lycée et ton lycée gagne ton état, en fait, tu vas être vu par toutes les universités. Mais là, AAU, c'est vraiment une plateforme pour être vu, plus qu'une plateforme pour gagner en équipe.
Et les, en high school, les matchs de high school, ils sont diffusés à la télé?
Ouh, ça fait longtemps. Je sais pas. J'imagine bien maintenant parce que on peut tout avoir. Je sais que des matchs de foot américain, il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont peut-être. mais pour le basket, je sais pas sur terre. Mais j'imagine que oui.
Mais il y avait. Alors, je sais plus. Il faudrait qu'on essaie que j'essaie de retrouver ça, que je vous mette ça dans les liens du podcast quand on diffusera ça. Je me souviens d'un documentaire, il me semble, sur Netflix, qui montrait justement la formation de jeunes. Alors là, c'était plus sur le basket au niveau américain. Et ce qu'il faut aussi comprendre, contrairement à nous au niveau européen, c'est qu'il y a, alors Ticket, tu pourras, je pense, confirmer, c'est qu'il n'y a pas de système associatif. C'est-à-dire que nous, des jeunes qui vont, on va dire, qui s'inscrivent dans un club de rugby, de basket, de hand de la ville, c'est de l'association quelque part. C'est la ville qui va aider un peu à financer ces clubs, et quelque part après, en fait, les jeunes qui vont intégrer ces clubs au rugby, au basket, au foot, au hand, s'ils sont un peu bons, en fait, ils vont être drainés par d'autres clubs un peu plus importants, et en fait le drainage va être de plus en plus important. Et un joueur, en fait, comme tu disais, Ticket, au niveau européen, on va d'abord regarder ses propensions à pouvoir jouer en équipe, dans le système américain, ce qui était vraiment très clairement montré, c'est que dès le plus jeune âge, en fait, les joueurs se conditionnent de façon très individuelle pour aller dans les meilleurs high school, au niveau basket, admettons, là on va parler basket, pour après aller dans le système universitaire américain, et pour pouvoir avoir, et c'est vrai que c'est quelque chose de totalement différent. Parce que ouais, ça fait vraiment des usines à champions. Alors que, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais le système européen est quelque part quelque chose d'un peu plus profond, où en même temps, bah, c'est une autre vision. C'est vraiment.
Rapidement, parce qu'on s'éloigne un peu du sujet.
Oui, mais
En fait, c'est intéressant. En fait, c'est assez marrant parce que moi, je suis allé dans un lycée normal aux États-Unis. Il y avait 1200 personnes. Moi, j'aimais bien le basket. En fait, je jouais un petit peu avec mes copains. Mais il faut dire quand même qu'il fallait être, il y avait que quoi, 10, 12 mecs qui étaient pris pour être en basket. Donc, bien sûr, j'étais pas pris. J'étais pas assez bon au basket. Déjà à 16 ans, surtout en Caroline du Nord, j'habitais en Floride avant. Floride, c'est un état de baseball et de foot américain. Par contre, j'ai déménagé à Caroline du Nord et en fait, quand il y a des ACC tournaments, les bons profs, ils ramènent la télé dans la classe, comme ça tout le monde peut regarder des tournaments dans la journée de school. Quoi, tu vois, c'était assez incroyable. Donc, bien sûr, je n'étais pas un des meilleurs de 1200, ça fait 600 mecs. Je n'étais pas un des 12 meilleurs mecs qui jouaient au basket. Donc, bien sûr, je ne jouais pas. Heureusement, j'étais assez bon pour jouer au foot américain, mais c'était parce qu'on était 75 quoi, sur l'équipe. Tu vois, donc, en fait, ma carrière, entre guillemets, de basket n'a jamais démarré parce que je n'étais pas assez bon à 15-16 ans pour joindre l'équipe du lycée. Donc, en fait, comme il n'y a pas d'association après, je n'ai jamais joué de basket organisé vraiment. La seule fois que j'ai joué, on a un truc qui s'appelle The Church League. En fait, c'est la ligue d'église, entre guillemets. Mais en fait, on joue pendant l'été. C'est vraiment que pour s'amuser. J'étais avec une équipe d'anciens joueurs de foot américain. J'avais quoi, 2 points et un steal tous les matchs parce qu'en fait, ils me donnaient le ballon jusqu'à j'ai marqué mon panier, tu vois, c'était gentil quand même. Mais c'est vrai que le système, il est complètement différent. Il y a un truc qui est très positif on a un vrai school spirit, tu vois. J'y vais à mon lycée. Bon, mon lycée, c'était des Tigers. On était à fond les Tigers, quoi, parce que déjà, on a 1200 personnes derrière nous. On a, je sais pas combien de milliers qui viennent pour le match de foot américain ou du match de basket. Il y a beaucoup de personnes qui viennent. Et on a un vrai school spirit, ce que tu vois à la télé, ça c'est vrai. Et ça c'est super parce que tu as une certaine appartenance que peut-être tu as un peu moins dans l'association. Mais par contre, quand tu as fini de lycée, peut-être ton carrière, entre guillemets, ou ta vie sportive, c'est d'aller au gym. C'est pas, pour moi, en fait, tu peux pas jouer au foot américain juste pour s'amuser avec des copains, avec des casques et tout, parce que tu vas finir à l'hôpital. tout un autre truc sur le niveau de soins aux États-Unis et les prix, etc. Mais ça, c'est toute une autre discussion. Mais bon.
Ah, mais c'est ça, c'est vrai que c'est fou. Je me suis jamais posé la question. C'est qu'il n'y a pas de club sportif en dehors de l'école.
Je pense que pour certains, peut-être je me trompe, il y a certains sports, genre le vélo, le karaté, des choses qui ne sont pas dans oui. Le judo, j'imagine tout ça, c'est OK. Oui. Mais il y a certains que si c'est vraiment scolaire, c'est plutôt scolaire. Mais peut-être on revient sur le sujet de jour de NBA. Pardon.
Mais c'était. Non, mais on a, alors, on a bien digressé, mais des digressions comme
les
ça.
Équipes négatives.
Je ne pense pas qu'il y ait un podcast basket qui ait parlé comme ça, justement, de système un peu de ligue chez les jeunes. Parce que c'est aussi quelque chose qui
est. Oui, il doit y en avoir.
Et on le voit, et ouais. Je pense que tu le vois, tu vois, on va finir la digression en deux minutes avec Victor Wembanyama, où tu t'aperçois en fait que son arrivée en NBA est aussi très particulière parce que lui, tu vois qu'il a eu l'habitude de jouer en pro, il a déjà eu l'habitude de jouer en équipe et il a déjà intégré certaines phases basket. Et tu sens que les Américains sont complètement époustouflés, mais quelque part, nous, tu te dis, ça fait déjà très longtemps en fait qu'il est là-dedans et qu'il a peut-être besoin de plus d'apprendre, on va dire, le basket NBA, mais de développer un peu le physique. Mais tout le cul basket, en fait, il est passé par des choses que je pense que énormément de jeunes joueurs au niveau universitaire ont pas connu, tu vois. Même si effectivement, il y a la marche Madness et des choses comme ça où ça amène quand même, on va dire, une certaine pression au niveau des équipes. Mais ce qu'il a pu connaître en Euroleague et en Pro A, c'est, je pense, quelque chose de totalement différent au niveau de la formation.
Je pense que Lucas, c'est le meilleur exemple. Ouais. Il est arrivé à 19 ans avec des épaules costauds. Il n'est pas tout mince non plus. Il a un certain poids. C'est un homme, en fait. Et c'est parce qu'il a joué contre des hommes à très jeune âge aussi. Donc, je pense que c'est pour ça aussi.
Lucas Doncic qui débarque, c'est exactement ça.
On reprend. On a fini la digression. On finit à l'ouest. Et je crois que ça va piquer pour mes oreilles. Parce que je crois que Derek veut parler d'une équipe.
Mais toi, tu nous as. Mais
c'est les Denver.
Ah oui, c'est vrai qu'on vient de. En tout cas, c'est vrai que.
Tu vois, Tiki, comme il me traite ici, il ne m'écoute même plus. Je suis invisible. Je suis le Casper. Hein.
Non, mais en fait, pour finir sur Denver, ce qui dépendra aussi, c'est le physique de Jamal Murray. Si Jamal Murray est bien pour les playoffs. Ça pourrait bien se passer pour eux. Mais ils sont quand même à un ou deux joueurs près de.
Ne spoil pas trop. On aura notre épisode playoff. Annonce de playoff. Il faut laisser du suspense pour les auditeurs. Il faut les appâter, tu vois. Tac, hop, on les affairer. Bon, Arnaud, je crois qu'on va plus être copains. Tu veux parler d'une équipe qui t'a fait souffrir un peu cette saison à l'Ouest ?
Qui m'a fait souffrir, mais je pense qu'elle souffre d'elle-même. Là, pour preuve aussi,
Attends, je crois qu'on te coupe. Il y a des coupures sur la ligne, on t'entend plus. Attention.
Non, mais c'est vrai que c'est son meilleur joueur qui a fini les yeux bien humides hier, malgré la victoire. Et ce joueur, c'est le meilleur meneur de tous les temps. C'est Stephen Curry qui commence à en avoir aussi un petit peu, je pense, la casquette. Parce que je pense que c'est le match d'hier des Warriors et il combine un petit peu tout ce que tu as eu sur la saison. C'est un Draymond qui réussit à se prendre une expulsion, donc deux fautes techniques en 3 minutes 26.
Parlons-en de Stockard un peu.
C'est très très compliqué et sur toute la saison tu prends un Kuminga qui pour faire passer ses messages est obligé de sortir dans la presse pour que ça bouge au niveau de l'effectif.
Mais je pense c'est
très compliqué.
Je suis un peu plus chez Warriors hein, pour ceux qui nous suivent en live et en audio, pas en vidéo. J'ai un maillot Warriors et c'est vrai que c'est un peu plus mon équipe. Le vrai problème en fait des Warriors. Outre, c'est masse salariale, 210 millions. Luxury tax, 165 millions. Il y a 50 millions en trop. Sachant que l'année prochaine, le contrat de Klay Thompson et de Stephen Curry va encore augmenter. Donc en fait,
mais Klay Thompson, il reste pas. Hein.
Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils vont faire. En fait, le problème des Warriors, en fait, c'est vraiment plus un. Ils ont aligné les contrats quand Clay, Stephen et même Damon Green étaient au maximum de leur forme. Et là-dessus, on peut pas leur reprocher parce que il y avait la luxury tax qui était pas aussi sévère que ça. Il faut savoir que la luxury tax l'année prochaine est à 178 millions. Et ce qu'on appelle le second apron. Alors, De façon, on va vraiment, on en avait déjà parlé sur les derniers épisodes. Maintenant, en fait, la luxury tax, vu que tout le monde la dépasse, il y a des taxes supplémentaires qui sont données. Et comme, en fait, on s'apercevait que même les taxes supplémentaires, ça servait à rien, la NBA a dit, on va remettre, en fait, des échelons supérieurs. Et si vous dépassez le niveau seconde à prendre, c'est en gros, vous avez plus de choix de draft, vous payez un maximum. Et je sais plus, donc là, les Warriors, ils sont dans le rouge complet. Et je pense que là, la fin de la dynastie va être assez terrible. Je sais pas comment ils vont s'en sortir financièrement parce que ils ont le coût, par exemple, de celui qui est parti à Washington, Tony.
Jordan Poole.
Voilà, Jordan Poole. On a dit oui, mais en fait, c'est simplement financier. C'est-à-dire que là, ils sont vraiment en train de faire des choses pour tenir financièrement.
Et même pas au final.
Ben, le problème, c'est qu'il va falloir pour, tu vois, cette saison, ils sont toute la base de l'équipe. En fait, moi, je considère que quand tu vas sur un titre NBA, il faut au moins avoir 10 joueurs qui soient à peu près, qui tiennent la route. Il faut avoir effectivement un 5 majeur, mais il faut aussi avoir des remplaçants. Et là, le problème, c'est que tu as plus de 5 majeurs véritablement qui tiennent chez les Warriors. Et en plus, comme tu as quasiment aucune marge de manœuvre financière, tu peux pas aller chercher des bons deuxièmes sergents. Vas-y, dis.
Non, mais moi, je trouve qu'en fait, il y a eu un truc dans cette équipe, c'est que dès qu'ils ont fait une saison de merde, ils ont eu un haut choix de draft, ils sont tombés sur le mec à ne pas drafter. Après, bon, ça arrive, hein, des mecs draftés en deuxième qui bustent et tout ça, etc. On va pas leur jeter la pierre. Mais en fait, à part là, le mec qu'ils ont drafté cette année, la Podziemski, je sais pas quoi, lui, limite, il sort un peu du lot, tu vois, mais et avec Kuminga aussi, mais genre,
il est pas mauvais.
Il est pas mauvais, mais sinon, en général, genre, ils ont eu du mal parce que, en fait, les mecs à qui tu voulais donner les clés après la dynastie, bah, en fait, ils sont tous plus là, ou ils sont tous claqués, ou je sais pas. Tu traites Jordan Poole, tu vas chercher Chris Paul, mais Chris Paul, en fait, c'est fini, malheureusement, hein, c'est triste, mais en fait, ils
plus un pied devant l'autre. Ils ont plus que ça à les chercher, le problème, c'est quoi?
Non, mais bien sûr. Au niveau financier, ils sont finis. Et Joe Lacob, dès 2021 ou 2022, le proprio avait dit, avec Bob Myers, qui d'ailleurs est parti, et je pense que son départ commence à bien se faire ressentir, hein, donc c'est à voir quand t'as un bon GM et ce que ça fait. Mais bref, mais du coup, lui, il était prêt à mettre la luxury tax pour garder tout le monde, parce qu'il a dit, bah, en fait, l'équipe, elle est là, on construit. Mais en fait, Steve Kerr,
Les Akron n'étaient pas encore passés à ce moment-là.
Oui, c'est bien sûr.
Très important à dire. Que du coup, ils ont pas pris ça en compte, ils pensaient avoir qu'à gérer la luxury tax. Quand les aprons sont tombés au niveau de la NBA, là, ils se sont dit, nos clochettes, elles sont entre deux
mois. Ouais, ouais. En fait, moi, après, je comprends cette histoire de luxury tax et tout, mais hors ce problème de luxury tax, en fait, ils n'arrivent pas à jouer comme il faut, je trouve. Pour moi, il y a un problème sur le terrain aussi. Draymond Green, c'est une catastrophe cette saison. Il est à côté de la plaque, c'est un gogol. Moi, je suis désolé, genre, j'ai rien contre les Warriors, mais Draymond Green, j'ai clairement un truc contre lui. Et vraiment, je trouve qu'il représente exactement ce qui se passe mal cette saison, parce que même Klay Thompson, qui a beaucoup tendance à se voir très beau, etc., il a mangé son pain noir, il en a pris dans la gueule, il a parlé avec Steve Kerr, il sort du banc et il est très efficace en sortie de banc cette saison.
On lui a dit qu'il y a des Hall of Famers qui ont construit leur carrière comme ça. Coucou Manu Ginobili.
Ouais. Ouais, du coup, lui, il s'est directement comparé à Manu Ginobili. Il faut qu'il se détende, mais tranquille. mais je trouve que voilà, quoi. Il a pris un peu ce truc. Il a dit, bon, vas-y, je vais sortir du banc. Ça va aider l'équipe. Qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine? Est-ce que c'est la dernière fois qu'on voit Klay Thompson sous ce maillot? On sait pas, on verra. Moi, je lui souhaite que le meilleur à ce mec-là parce que son prime, il est parti à la poubelle. Mais moi, je trouve que Draymond Green, c'est une vraie galère. Stephen Curry, il est à bout. Hier, ça, la tête qui tire quand Draymond Green te fait exclure en dit long sur l'état mental dans lequel il est et comment il est en train de porter cette équipe depuis 2 ans.
Ça fait 12 ans qu'ils jouent ensemble. Ils ont connu quand même les 5 bagues. Je pense psychologiquement, il s'aperçoit de choses, mais c'est dur. T'imagines, ça fait 20 ans que tu es avec ta femme, que tu commences à avoir une relation qui commence à devenir pas forcément très saine et très belle. et tu te dis qu'est-ce que je fais, pourtant ça fait longtemps que je suis avec elle, et je pense que ou alors dans un groupe de musique, tu vois, c'est des choses. Ah, ok.
Bah, j'ai une idée, je suis d'accord avec vous, c'est un fin de relation, c'est un fin de moment, de gloire et tout. Et ce qui est incroyable, c'est que Curry, il a 2 ans de plus que les autres mecs, donc c'est ça qui est fou quand même. Et donc, je pense que la meilleure chose pour lui, c'est de partir et retourner à Charlotte, hein. C'est là où il a fait ses études, il y a là avec son papa, et d'aller à Charlotte, c'est très très bonne idée.
Partir,
voilà,
quelle
intimité,
ça va être très bien.
Je sais pas si je vais vous réinviter, hein, parce que dire des choses comme ça, c'est moche quand même.
Ah là là, non, mais je pense qu'aussi il est dans cet état-là de à la sortie de Draymond, c'est que Stephen, c'est lui qui porte complètement l'équipe. Il y a quand même un des derniers matchs là où il joue plus le quatrième carton et l'équipe s'effondre totalement. Et donc les mecs, c'est ah ouais, mais c'est plus dur de gagner sans Stephen. Oui, merci, l'eau s'amouille. Mais le truc, c'est que tu sens quand même les Rockets qui leur soufflent très fort dans la nuque. Lui, il se bat tous les soirs. Il est obligé de faire des matchs de All-Star tous les soirs pour essayer de tirer vers le haut cette franchise. Et là, comme le dit très bien Tony, tu as le Gogol, premier roi des Gogols, qui se fait exclure comme ça et qui pète tout. Je pense qu'il en a marre. Nerveusement, tu sens qu'il est au bout.
Mais est-ce que tu as regardé après Stephen Curry, ouais, on va passer vite à la suite. C'est vrai qu'on tergiverse un peu, mais Stephen Curry, bon, met le shoot de la gagne à un moment, genre à 30 secondes de la fin, il est cuit, mais un 3 points classique. Dans le vestiaire, Draymond Green, c'est tenue de ville, c'est bon, il a pris sa douche et tout. Il le check, il lui fait un câlin, ah, ma gars, je sais pas quoi et tout. Il dit, mais mec, tu peux pas te comporter comme ça, alors qu'en fait, tu leur as compliqué la tâche de A à Z, quoi. Genre, franchement, enfin. Pour moi, il est déconnecté, le mec. Il est à côté de la plaque, il se rend compte de rien du tout. Ça l'intéresse plus d'avoir LeBron sur son podcast que de jouer au basket.
Ah bah, c'est clair.
Voilà. Donc, bon courage, très cher Richard, pour la fin de saison.
Merci. et toi, il me semble que, Tony, tu voulais parler d'une équipe aussi.
Ouais, on va rester en Californie. Et on va aller voir une équipe sur laquelle j'ai l'impression que beaucoup de gens étaient chauds, mais là, à leur fin de saison, il y a eu une vibe très chelou, c'est les Clippers. Ah, yeah. Moi, les Clippers, j'ai regardé, en plus, là, j'ai bien suivi, on a maté quelques émissions, regardé un peu ça disait quoi dans la sphère NBA. Ils sont, bon déjà, je ne sais pas si vous avez vu les déclats de Tyronn Lue hier ou avant-hier, donc comme quoi l'équipe soft, etc.
Ouais, ça c'est dur, quand même, le coach dit.
Ça vous c'est êtes dur quand le coach le dit. Après, Tyronn Lue, il est ce truc de player's coach et tout. Moi, je comprends pourquoi il le fait, je pense qu'il veut piquer ses gains.
Ouais. C'est que le message passe plus dans le vestiaire. C'est qu'il y a une quinzaine de jours, les mecs, ils voient ces joueurs qui sont en claquettes chaussettes. Enfin, le match de dimanche, alors certes, il était à midi et demi.
Oui, c'est mais il faut arrêter. Les Clippers, à midi et demi, ils nous sortent toujours la même disquette.
Mais c'était scandaleux.
Non, c'est n'importe quoi. Et... Dis-moi.
Est-ce que tu vois la grosse catastrophe
de basculer? Je la vois pas. En vrai, je pense qu'ils vont se tenir parce qu'il y a quand même un star talent assez incroyable. Mais tu vois... Je sais plus qui disait ça. Je regardais une vidéo, un truc comme ça, pas plus tard qu'hier ou aujourd'hui. Mais tout connement, on n'a pas arrêté de chier sur Westbrook, je sais pas quoi, tout ça. Bah t'as pas son impact en sortie de banc. Déjà, tu vois déjà juste le peu de différence qu'il y a malgré tous les mecs que t'as sur le terrain. Et en fait, déjà rien que ça, je pense que ça fait la diff. J'ai l'impression que les mecs se sont mis dans un fauteuil en fait quand on leur a dit vous pouvez aller titiller. Le top 3, je sais pas quoi et tout, et en fait, ils sont à deux doigts de se faire attraper par les Pels qui sont très bons. TK, tu voulais dire un truc?
Ouais, en fait, je pense que c'est marrant parce que Russell Westbrook, c'était jamais un mec que j'ai beaucoup aimé, sauf qu'à la fin, il commençait à aller dans toutes ces différentes équipes, là, et d'un coup, chaque équipe dit punaise, mais ce mec, il bosse et c'est un vrai leader. Et quand tu regardes les Clippers, en fait, les Clippers, moi, jamais aussi, c'est un peu comme les Kings, ils sont jamais vraiment intéressés. Mais en fait, quand ces joueurs-là, Paul George, ok, Kyrie, ok, The Beard, ok, fine, mais en fait, est-ce que c'est des leaders, ces trois mecs-là? Tu vois, ils sont super talentueux physiquement. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que Leonard, il était très, très vite, beaucoup plus rapide que j'aurais pensé. Il est fort, il est super fort physiquement. Mais en fait, qui va les mener loin dans les playoffs? Et en fait, c'est le seul qui a un peu de leadership, quelque part, c'est Westbrook, en fait, à mon sens.
Bah, moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est le seul qui est capable de suppléer Tyronn Lue un peu sur le terrain, c'est de faire passer le discours. Là, Tyronn Lue, il est moi, on lui a pas mal craché dessus quand il était à Cleveland. Mais ouais, c'est un vrai bon coach, là, ce qu'il fait avec cette équipe, quand tu as tous les égos qu'il a à gérer, tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, le seul qui hurle, qui a une grande gueule, qui va dire quoi faire, tu vois, c'est Westbrook. Et en fait, il a beau avoir des stats en baisse parce qu'il sort du banc et qu'il a un rôle très défini, en fait, il est important quand il les rejoint sur le terrain, tu vois. Moi, je suis désolé. Enfin, moi, de toute façon, j'ai toujours soutenu ce gars, moi, depuis le début, tu vois. Mais c'est vrai que les Clippers, il y a, parce que je veux, faut pas qu'on traîne, faut qu'on passe à l'est, mais les Clippers, il y a une vibe de ça repue la loose là, bizarrement d'un coup, alors que ils avaient vraiment un feu vert pour moi pour faire se mettre en marche et faire une playoff incroyable.
Moi, ce qui me questionne aussi, c'est l'âge de tous ces, on va dire, joueurs de
ouais.
On va dire, c'est j'ai perdu mes mots, excusez-moi. Mais on va dire les meneurs, les gens qui vont faire le match. On s'aperçoit quand même Paul George, Leonard Harden, 33 ans de moyenne d'âge.
Ouais, ouais.
Je trouve que c'est quand même un peu âgé. Est-ce qu'ils ne seraient pas grillés pour cette fin de saison à voir comment ils vont aborder.
Quand c'est des superstars comme ça, moi je dirais plutôt que tu es quasiment sur ton... Alors, tu as commencé à décliner un petit peu, mais tu es quand même pas loin de ton prime. Et quand tu as quand même 4 Hall of Famers...
Que t'en aies un ou deux.
Parce qu'ils, là, ils ont 4 Hall of Famers potentiels.
Attends, j'ai 49 ans, je suis toujours sur mon prime de podcaster. Hein.
Voilà.
Eh ben, oui.
Mais nous, on est sur la pente ascendante. Ça ne s'arrête pas. Exactement. Il n'y a que la mort qui peut nous arrêter. Mais non, mais c'est vrai que c'est une franchise qui pue la loose. Et en fait, j'ai été interloqué dans le sens où ils n'ont aucun maillot retiré dans la salle chez les Clippers.
Ah non, ils ont rien parce qu'il n'y a jamais personne qui reste. C'est genre, franchement, les mecs qui ont été assez... Là, le Clipper le plus emblématique, enfin, un des Clippers les plus emblématiques à la rigueur, tu vois, là, dans les dernières années, c'est Blake Griffin, tu vois.
Ouais. Là, les Clippers, de toute façon, c'est Blake Griffin et Chris Paul. C'est les deux qui mériteraient d'avoir leur maillot retiré aux Clippers.
Non, mais à la rigueur, tu vois, moi, après, je connais pas toute l'histoire non plus, mais c'est vrai que là, je sais pas... Là, en fait, ils étaient trop bien, et je sais pas ce qu'ils ont foutu sur les dernières semaines. Il y a une vibe, ça sent vraiment le pétard mouillé, quoi.
Et comme beaucoup d'équipes, le souci, c'est qu'ils pensent que on est tranquille, les playoffs vont arriver, on va cliquer sur le bouton, on va se remettre en mode, etc. Et c'est le meilleur moyen pour se prendre deux défaites d'entrée, même s'ils ont l'avantage du terrain en finissant quatrième. Tu te prends deux défaites à Los Angeles et derrière, tu vas ramer. Pour pouvoir t'en sortir, donc
j'espère pour eux que ce sera pas Dallas qui les attend en 5e place et que ce sera les Pels parce que les Pels à la rigueur ils leur manquent
un grand programme, tu vois, mais... c'est une belle passe décisive que tu me fais mon cher Tony, parce que moi juste pour finir un peu à l'Ouest, mon équipe un peu décevante c'était justement Dallas. Mais en fait, moi, je trouve que ils sont un peu sixième. Ils sont en bataille pour les playoffs. Et moi, en fait, je les voyais plus haut. En fait, je les voyais plutôt titiller la deuxième, troisième place. Dallas a une masse salariale à 174 millions, 175 même quasiment. Je trouve qu'en fait, ils ont quand même pas mal engagé de frais et surtout quand on parle de Dallas. On va parler de l'extraterrestre un peu de Monsieur Doncic, mais je trouve que ça clique pas forcément à côté. Ouais, mais je suis déçu. J'en attendais plus. Sixième comme ça, à la peine. Et encore, on se demande. Normalement, ça devrait passer pour les playoffs, mais ça se bat quand même pour les primes. À voir.
Moi, c'est
plus, on va dire, une atmosphère un peu générale.
Je suis pas autant mitigé que toi.
Je dis toujours que la saison régulière est la saison régulière. Quand on commence les playoffs...
Ah, les playoffs, c'est un autre sport.
C'est un autre sport. On repart sur la base. Il y a ces équipes qui sont à égalité. Et à la fin, il n'y en a qu'une qui gagne. Donc, c'est encore autre chose. Mais de cette saison régulière, je ne sais pas. Je voyais qu'un Dallas plus imposant, plus dominant.
Mais ils ont été un peu.
Voilà, il y a ce côté un peu Nancy.
Pour alternatif, un peu, ouais.
Et voilà. Donc voilà. On mais a bien parlé de l'Ouest.
Mais c'est vrai que quel que soit le sport hein, sur les playoffs, hein, parce que tu prends l'année dernière en NHL, les Boston Bruins qui ont écrabouillé la ligue, ils se sont fait sortir au premier tour comme des gros sables.
Boston, on n'oublie pas Boston cette année en NBA. Hein.
Ouais.
Attention à ne pas faire comme les Bruins l'année dernière.
Bah, qui sont en train d'écraser la ligue.
Exactement. Aussi. Et bien justement,
on se faire taper au premier tour par les Bulls.
C'est encore une passe décisive que tu nous fais. On dirait Victor Wembanyama des grands soirs, parce qu'on va basculer à l'Est et on va parler.
Je préfère une passe décisive qu'un gros contre dans ma tête, hein, quand même. Hein, c'est...
Allez, mon petit Tony, ton équipe coup de cœur à l'Est, c'est qui?
Les New York Knicks. Les New York Knicks.
Ah, yeah.
Oh non, ouais, mais franchement, franchement.
Mais qu'est-ce qui te fait aimer les Knicks? Je suis curieux.
En fait, c'est pas que j'aime les Knicks, tu vois. Pour moi, c'est juste, c'est une équipe emblématique. Moi, là-bas, je suis fan des Lakers, mais je trouve que la saison qu'ils font, déjà de base, que j'en avais déjà parlé sur l'émission qu'on avait fait après la trade deadline, où je trouvais qu'ils avaient fait déjà des trades de fou. Mais en fait, déjà avant les trades qu'ils avaient fait, ils étaient déjà en train de titiller le top 3 et tout. Et malgré les problèmes d'infirmerie, bon, on en parlait déjà il y a un mois, c'est pas trop en train de s'arranger, mais non. Allez, Mitchell Robinson est revenu hier, en vrai, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on pensait qu'on n'allait pas le revoir la saison. Mais les Knicks avec Jalen Brunson, moi personnellement, bon, il manque Julius Randle, tout ça, etc. Mais franchement, je sais pas pourquoi. Bon, déjà, le mec, il dégage un truc. Puis là, il y a Miles McBride qui sort de nulle part. Je sais même pas c'est qui ce mec. Enfin, genre, c'est abusé comment il y a des mecs qui sortent de nulle part et qui performent comme ça. Et je sais pas pourquoi. Je trouve que cette équipe elle dégage une sérénité malgré les problèmes d'infirmerie et tout. C'est complémentaire, ça joue bien. Et franchement, eh ben, j'ai pas envie de me les taper en playoff, hein, blague à part. En plus, ils sont sur le podium là pour l'instant.
Ah, c'est marrant parce que j'ai demandé, je les ai vus récemment contre, je pense que c'était les Nets, et j'ai tombé un peu par hasard, et je me suis dit, mais déjà, mais il y a qui sur les Nets? Tu te souviens, il n'y a pas si longtemps, il y avait des trois grands stars, et maintenant, il y a qui sur les Nets? Et après, les Knicks. au moins, les Knicks, je savais, OK, il y a Brunson. Et en fait, quand j'ai regardé, je dis, ah, bah, en fait, oui, il y a l'autre que j'aime beaucoup, j'avais loupé son nom, l'italien avec le nom.
Vincenzo.
Voilà. Voilà, merci. J'aime beaucoup Hart aussi. J'ai toujours aimé ce mec parce qu'il a toujours la banane. Il a l'air très drôle.
C'est des soldats. C'est une équipe de soldats.
Et en plus, j'aime bien son coiffeur, là, sa coupe de cheveux. Je trouve ça magnifique. Et en fait, mais je disais, mais attends, mais c'est quoi cette équipe? Ils jouent super bien ensemble. Et c'est cool. Moi, j'aime bien les histoires des mecs Brunson qui fait un saison d'enfer. J'adore ça. Il change d'équipe et deux ans plus tard, il est vraiment.
Il est en train d'éclater son potentiel.
Incroyable. Incroyable.
Franchement, il y avait déjà des prémices à Dallas quand ils éliminent les Suns et qu'ils vont en finale de conf, mais en fait à New York il est venu confirmer tout ça là. Et c'est l'équipe de Julius Randle, mais absolument pas. Dès qu'il est arrivé, il a joué quelques matchs et il a dit oui, Julius Randle il est très gentil, l'équipe elle est à moi. Et en fait le mec il est monstrueux, en plus il est All-Star cette saison, enfin avec Thibodeau ça clique bien. Faut juste que Thibodeau il les crame pas trop sur la fin de saison là, parce qu'on sait que c'est un maboule lui, mais franchement pour moi il y a du bon role player, il y a de la bonne star, OG Anunobi, tout ça, enfin franchement il y a de quoi faire en vrai dans cette équipe, et moi t'as pas envie de les jouer en vrai.
Ouais, en plus le DiVincenzo là, il avait mis 28 ou 30 points ce jour-là, quoi. Tu vois, c'est un truc. En plus, il joue super bien de défense. J'étais
bien sûr, mais il est trop bon des deux côtés du terrain.
C'était quelqu'un qui devait normalement remplacer Gary Payton 2 quand il était aux Warriors, et ça
n'a pas cliqué.
Et c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis, Tiké, c'est un super joueur. Moi, j'avais bien aimé l'année dernière, et c'est con qu'il n'ait pas percé l'année dernière. Et non, c'est
mais il n'avait pas chopé la bague avec les Bucks.
Pour moi, j'ai un doute. Parce qu'en fait, je sais qu'il fait Bucks Warriors, mais j'ai jamais l'ordre.
Mais il me semble qu'il prend la bague avec et qu'il part des Bucks derrière. Hein. Bon, enfin bref. Mais ouais, c'est et pour en plus le coup, les Knicks profitent du No Man's Land qu'il y a à l'Est.
Aussi, tu vois, mais en vrai, tant mieux, parce que du coup, ça fait que là, tu laisses les mecs revenir petit à petit, et en fait, pour moi, ils vont arriver en play-off déjà dans une bonne forme, j'espère pour eux, et puis le Madison Square Garden en play-off, quel plaisir, quoi.
Bah là, ça fait... Ouais, ça va être assez plaisant à voir.
Derrick, moi, j'ai voilà. Pour les concerts de Taylor Swift.
T'as bien raison.
Derrick, tu nous parles de ton équipe préférée à l'Est?
Bah, j'ai une petite affection. C'est vrai qu'on va pas parler des Boston Celtics parce qu'ils roulent sur la ligue. Ils sont à 80% de victoire. Ils ont les mecs qui restent, même quand il restait déjà 10 ou 11 matchs, ils avaient déjà clinché la ligue. La conférence de Est, elle est dans leur poche depuis un petit moment. Enfin bref,
la ligue sera dans leur poche en termes d'avantage du terrain. Ils vont être
mais le gros problème, c'est qu'avec justement ces équipes qui ont glissé progressivement, parce que quand on regarde le classement, bah finalement les gros qui pouvaient être attendus, c'est-à-dire les Miami et les Philly, ils sont 7e et 8e. Avec Philadelphie qui a peut-être récupéré Embiid pour les playoffs. Miami, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Les mecs, ils étaient en play-in, ils finissent en finale la saison dernière. Mais voilà, tu ne sais jamais ce que ça peut donner. Mais donc, tu peux avoir un Boston-Philly et donc un Milwaukee-Miami en premier tour des playoffs. Donc,
il y a de la place derrière.
C'est les Bucks, parce que là, on va dire que tu as Giannis qui est dans la forme de sa vie, qui le mec en un contre un, il est totalement inarrêtable. Ils ont récupéré un Middleton qui est pas forcément aussi mobile que quand ils vont chercher la bague, mais il est là, il profite, il prend des minutes, il est là pour pouvoir mettre des bons shoots, des bonnes passes. Et surtout, t'as le mec qu'ils ont été chercher du côté de Portland, qui va goûter les playoffs et qui va apporter justement sa maîtrise des fins de match. Mais c'est surtout, c'est que ça offre au coach une palette au niveau pour finir un match qui est juste monstrueux.
Il a dit palette et coach des Bucks. Oh là là.
Ouais, c'est ça.
Donc bon, c'est pour moi il y a quand même pas mal de choses. Ça se met pas mal en avant. Après, j'aimerais voir en finale de conf Boston Milwaukee, mais
là où je suis un peu plus sceptique que toi, moi c'est par rapport à ce qui s'est passé sur l'entraîneur. Quelque part
tu m'étonnes.
Non mais c'est à dire que il va falloir que les joueurs en fait en gros les joueurs ont viré l'entraîneur et il y a eu c'était quand le changement de coach
oula je sais plus c'était quand
mais... deux mois, en janvier
quand tu vois l'entraîneur je pense que ça devait être en fin d'année ou en début de en fin 2023 ou début 2024
on est toujours en 94 Kurt Cobain n'est pas encore mort pour moi, donc je fais des références, Tony, que tu n'as pas connu, donc bien sûr.
Écoute, on va parler des Sonics alors.
C'est ça.
Allez.
Sonics de Seattle, il faut que je trouve le maillot. Mais du coup, en fait, le vestiaire, c'est un peu lié contre l'entraîneur. Ils ont changé l'entraîneur et il y a eu en plus un passage à vide un peu des Bucks avec justement l'arrivée de ce nouvel entraîneur et du coup
il est nul hein.
Doc Rivers ça fait des choses
mais ça fait 15 ans qu'il a rien fait
c'est le principal caillou dans la chaussure au niveau des Bucks et à voir.
Perso je les ai pas vus cette année. Et j'aimerais bien, moi je suis juste curieux, j'aimerais bien voir Damon Lillard. En fait, j'adorais le regarder quand on était chez Portland, je trouvais ça magnifique. Mais je suis curieux maintenant avec Giannis. Comme j'ai dit, j'ai pas pu les voir cette année, mais je suis curieux en playoff de les voir, est-ce que cette combinaison va fonctionner et surtout est-ce que la défense de Lillard, est-ce que ça va être mon compte ou pas.
C'est toujours le souci avec Damian, quoi. C'est C'est... Ouais. Mais à côté, justement, il y a quand même du monde. Et c'est vrai que sur le papier, si tout le monde est là, un Brook Lopez, un Giannis Antetokounmpo, ouais, un Chris Middleton et un Damian Lillard, c'est quand même pas trop dégueulasse.
Non, en vrai, ça va, c'est pas mal. Après, ils ont quand même cet avantage de, si jamais ça défend mal, tu vois, ils ont quand même cet avantage de, ils peuvent se mettre en face de n'importe qui et leur dire, en vrai, on va marquer plus de points que vous.
Oui.
Ouais. Je suis pas sûr si t'as vu, mais il y en a Giannis quand même, donc.
Ouais.
Bah, après, ça c'est la tactique actuelle des Los Angeles Lakers. Hein.
Ah ouais, non, mais
essayer de marquer plus de points que l'adversaire, mais et la dernière fois, le 145-140 dans le temps.
145-150.
Ouais, 145-150.
Passé à l'est, messieurs. Mais sans
overtime en plus, hein, dans le temps réglementaire.
Non, mais
295 points marqués dans le temps réglementaire.
Laisse tomber. C'est... Bon, t'es content qu'il le gagne ce match, mais laisse tomber.
Ouais, bah toi, Anthony Davis, il faisait la gueule.
Ouais.
On va oui, pardon, Richard. De...
Voilà, ben oui, mais voilà. Tu vois, Ticket, je suis même pas écouté par mes sergents. C'est honteux.
Vas-y, dis-nous. Dis-nous
que tu aimes. Je voulais juste un peu signaler ma petite équipe coup de cœur de cette année. C'est le Magic.
Ouais.
Personne ne les voyait à la sixième place. Il n'y a quasiment pas de vrai playmaker un peu. C'est vraiment, on va dire, une équipe.
Pas le banquero.
Un peu, ouais, mais ce que je veux dire,
il n'y a pas un vrai meneur. Même,
c'est ça. Et c'est une équipe qui se construit un peu sur sa défense. On retrouve un peu des scores à l'ancienne. Alors, je ne vais pas dire que.
Oui.
On a du 65 points par match avec les Magic, mais c'est vraiment un jeu un peu plus dur, un peu plus ardu. Et je me dis pour les playoffs, là ils sont cinquièmes en combat, enfin en bugna-bugna avec soit les Cavaliers ou soit les Pacers pour peut-être aller chercher la quatrième place ou descendre à la sixième. Mais s'ils arrivent à basculer à la quatrième place et au moins avoir le premier tour à domicile. On verra avec l'épisode playoff, mais moi je verrais bien en plus le Magic passer un tour comme ça et pouvoir aussi comme on disait par exemple pour les Rockets, emmagasiner un maximum d'expérience. Ils n'ont pas forcément une grosse masse salariale et ils ont la 28e masse salariale quand même, hein. C'est quand même assez fou ce qu'ils sont en train de faire.
Salaire le plus élevé cette saison, c'est Jonathan Isaac, 17 millions 4.
Et c'est
c'est même pas le vraiment... cinquième salaire dans un autre club, quoi.
C'est ça. Et je trouve qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire, alors moi je les suivais de loin, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais quand même, ils sont comme 6e, mais il doit y avoir un truc. Mais en fait, non, il n'y a pas de truc.
Après, tu as un très bon coach et une bonne équipe.
Et après, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'ils profitent de la faiblesse de l'Est.
Oui, mais alors, c'est le même. Pour moi, c'est le OKC. Oui. Tu vois, c'est vraiment de l'autre côté. Je pense qu'en 5 ans, on va voir OKC contre Orlando dans les finales. Hein, parce que c'est tellement beau, ces deux jeunes équipes. Ils ont super bien drafté aussi depuis 4 ans maintenant. C'est vraiment superbe, en fait. Donc, c'est bon choix, hein, Richard. En plus, tu parlais de défense. J'ai regardé les defensive ratings. Ils sont 3e. En fait, NBA Defensive Rating, c'est fou.
Ah ouais.
Et quand j'adore le NBA pour les stats, en fait, tu peux trouver des stats de tout et n'importe quoi. Et en fait, eux, ils laissaient moins de rebonds, il me semble, à toutes les autres équipes. Tu vois, ils faisaient plus de rebonds. Et en plus, ils restaient aussi intéressants, moins d'assists. C'est quoi, passes décisives. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il y a moins d'assists contre eux. Donc, ça veut dire que les gens, ils doivent vraiment, chacun, ils ont une défense de folie. Et en fait, ils ne peuvent pas passer le ballon entre eux.
Il y avait aussi une stat très intéressante, c'est qu'en fait, ils avaient le plus haut taux de tir à 3 points contre eux. Mais en même temps, ils avaient le taux le plus faible de 3 points encaissés. Parce que quand on commence à regarder ces statistiques-là, c'était que des tirs à 3 points pris dans les 2-3 dernières secondes. Donc, des tirs qui étaient vraiment déclenchés un peu à la sauvette. Et t'as pas Stephen Curry à chaque équipe. Donc, des tirs qui sont déclenchés au dernier moment. En fait, tu peux pas marquer, quoi. C'est vraiment, il y a des mariés à chaque fois. Donc, en fait, c'est vraiment mais je trouve ça intéressant, mais il faudra voir si ça peut se tenir en playoff. Mais je suis plus confiant pour les Magic avec le premier tour que pour OKC. Parce que je trouve que justement, ce travail un peu plus défensif,
oui.
ça peut servir. Les playoffs, c'est vraiment d'abord de la défense et après, généralement, tu as toujours un peu de playmaker qui vient et qui peut.
Ouais, je pense qu'ils vont être soit normalement un peu contre soit les Cavaliers ou peut-être les Knicks ou c'est quelque chose comme ça, si j'ai bien compris.
Mmh. Ouais, pour l'instant, c'est les Cavs.
Ouais. Les Cavs, oui, donc ça peut être joli. Les Cavs, on n'a pas parlé, mais c'est une équipe que quand j'ai vu, je dis ah bon, tu vois, ils sont parce que c'est hyper étonnant.
Ils ont des problèmes de blessures, mais les Cavaliers, moi je te le dis, hein, ils sont à un bon coach d'aller chercher le top 3 chaque saison. Hein.
Ok, mais c'est marrant parce que quand j'ai dit Garland, Mitchell, ok, Strauss, ok, Mobley, oui, Allen, je comprends, mais pour moi j'étais étonné qu'ils étaient si haut.
Les Cavaliers, ils ont la cinquième defensive rating. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que sur les 6 meilleures défenses de la NBA, il y en a 5 à l'Est. La meilleure défense de la NBA, c'est Minnesota, mais sinon les 5 suivantes, c'est New York, Orlando, Miami, Cleveland et Boston.
Ouais, mais parce qu'à l'Est, ils savent que défendre, ils savent pas marquer des points, apparemment.
ouais, parce que si on passe en attaque. La meilleure attaque, c'est Indiana.
Ouais, mais ça, en même temps, c'est. Oui, mais par contre, tu vois, Indiana, ça doit être genre la 23e défense ou un truc comme ça, tu vois.
Alors,
après. C'est l'avant-dernière, c'est la 29e.
Voilà, 29e, tu vois, ils savent pas défendre, Indiana, tu m'étonnes que c'est les premiers à marquer.
Et donc, après avoir vu tous ces points positifs. Finissons par nos petits points négatifs, nos petites merguez quand même, hein, parce que il faut quand même qu'on lance de la merguez. Allez, Derek, dernière équipe qui te fait pleurer des yeux. Allez,
là, franchement, j'étais à deux doigts de prendre de mettre les quasiment, je ne vais pas dire les 15 noms, mais on va dire une dizaine d'équipes et de prendre au hasard, tellement c'est. Ça pue. Enfin, là, l'Est, c'est vraiment très, très compliqué. Mais pour moi, ceux qui ont quand même la palme, et là, c'est vraiment l'équipe qui a plus rien à jouer. On avait déjà compris à la trade deadline que ça se débarrassait de son meilleur joueur. Enfin, bref, ça va faire un gros bouton rouge en espérant très, très fort drafter le plus haut possible s'il y a des bonnes pièces. C'est les Toronto Raptors, quoi. Enfin, y a juste à dire qu'ils sont sur 12 défaites d'affilée pour dire que les mecs, c'est bon. C'est dans combien de temps la fin de saison? Une vingtaine de matchs? Ouais, bon, allez. On met le clignotant, la bande d'arrêt d'urgence, hop, on se cale, on met le petit triangle, on met les warnings quand même pour pas se prendre un camion dans les fesses de la voiture, mais voilà.
Je trouve ça plus sain que ce qu'ils ont fait que des Chicago Bulls qui restent en fait sur une sorte d'entre-deux.
Chicago, ils ont quand même encore quelque chose à jouer. Ils ont les Raptors, ils ont.
Est-ce qu'ils vont jouer encore quelque chose, quoi, après? Le problème, tu vois, des play-ins, c'est ce qu'on s'était dit un peu sur la dernière mission, donc on va pas trop revenir dessus, mais les play-ins, en fait, va te chercher jusqu'à 10 équipes à l'Est et à l'Ouest. Donc, en fait, va te prendre des équipes qui n'auront pas forcément la capacité d'aller jouer le titre. Mais en même temps, du coup, en fait, ils peuvent plus aller nous faire des fins de saison dégueulasses pour essayer d'aller chercher une place au niveau de la draft. Donc, là, c'est très clairement dit. Et je pense que c'est aussi... après, c'est les questions en fait de reconstruction. C'est toujours ça qui est intéressant d'un certain côté. C'est jusqu'où tu peux engager ta reconstruction. Qu'est-ce qu'il faut casser? Et est-ce que la reconstruction va bien se passer aussi?
C'est qu'il y a un petit peu trop d'équipes qui sont dans ce mood. Et il y a une équipe dont on va parler à mon avis Tony juste après. Et le gros problème, c'est que tu peux être en reconstruction. Mais je pense que les Raptors, c'est comme les Nets. On ne voit pas le projet. On ne voit pas le projet. Le projet, si c'est juste de pas être bon, et en fait, quand tu tankes, comme l'avait fait San Antonio, typiquement pour aller, c'était le tank à Wemby, où tu voulais aller chercher Victor parce que tu sais que ça peut te changer ta franchise d'ici 2-3 saisons, si tu l'entoures bien et que tu fais les choses bien. Là, tu sais même pas. là, tu ne vois pas le projet. Ils sont dans l'espèce de no man's land entre le playing et le tank et la loterie.
Justement, et je voudrais aussi interroger rapidement Tiquet là-dessus, parce que c'est vrai que c'est aussi des questions qui peuvent être particulières pour nous, Européens, cette histoire de tanking et de reconstruction. Moi, j'écoute aussi un podcast sur la NFL, la NHL, c'est LNH, si vous voulez trouver sur toutes les applis de podcast, c'est vraiment spécialisé sur la NHL. Et un peu plus spécialisé sur les Canadiens, forcément. Parce que...
Mais j'espère que tu ne vas pas me poser des questions sur la NHL parce que j'ai grandi en Floride. Donc...
Il y a des belles équipes en Floride.
Oui, mais pas quand j'étais là.
On va faire une petite deuxième digression, c'est que ce qu'ils expliquaient, c'est que le Canadien est en reconstruction depuis déjà 3-4 ans, et qu'en fait, le problème, c'est que les reconstructions ne prennent pas. Et c'est ça, en fait, c'est la question, c'est de se dire, une reconstruction, c'est aussi un risque, parce que tu vas appeler de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs, tu vas complètement faire que tes meilleurs joueurs s'enlèvent pour essayer d'avoir une grande marge au niveau du cap salarial, mais il faut aussi que quelque part le projet réussisse. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours
un peu la question. Paris. C'est est-ce que c'est un risque de tanker? C'est ça?
C'est ça.
C'est pas comme en Europe où en fait si tu perds tu peux descendre, tu vois, donc tu vas toujours quand même gagner des millions et des millions par tous les rights, et en fait tes fans ils vont venir plus ou moins, hein, ils vont peut-être pas remplir comme les Memphis et OKC qui ont des stats incroyables, je pense, par rapport à des gens qui viennent dans les stades, mais je pense que les vrais fans ils vont laisser quelques années pour passer, tu vois, les Charlotte Hornets, bah ils ont laissé beaucoup d'années, hein, pour faire quelque chose, mais c'est quoi le projet en fait? C'est ça la question, je pense que tu avais dit, Derek, c'est quoi le projet? Et c'est ça le plus important à transmettre aux fans, en fait. Mais donc, ça paye pour San Antonio, ça paye, mine de rien, maintenant, tanké pour New Orleans, il n'y a pas si longtemps, New Orleans, c'était horrible. Et maintenant, ils ont Zion, oui, Philadelphie, c'était même The Process et tout ce truc. Bon, donc, je pense que c'est un bon, il faut avoir un bon, on va dire, VP de communications, hein, pour bien communiquer. On est sur la bonne voie, vous inquiétez pas et tout ça. Mais je pense que tanker, mine de rien, ça fait peut-être une partie du sport américain dans un sens. Ça, c'est, ouais, comme on dit, my two cents.
C'est ça qui est aussi extrêmement intéressant. Alors, Tony, est-ce que tu veux nous parler des Nets? Est-ce que tanker aussi, c'est leur
Moi, c'était juste pour... Là, tu parlais du Canadien de Montréal, mais tu n'as pas besoin d'aller bien loin. Hein. Moi, il y a un projet où c'est le tank depuis plusieurs années et ça ne prend pas, où c'est même, j'ai envie de dire, un gouffre à numéro 1.
On ne parle pas de football et on ne parle pas de Paris, hein. Attention.
Non, derrière. Moi, je parle des trois Pistons.
Oui.
En fait, j'ai l'impression que quand tu es dans les premiers tours de draft, tu n'as qu'un seul truc. Si, je pense que les mecs sont peut-être extrêmement croyants. Ils vont à l'église ou à la mosquée avant la loterie. Ils espèrent un truc, c'est de ne pas tomber à Détroit. Détroit, c'est une machine à broyer des
first. C'est qu'à Détroit, genre, c'est l'ancien assistant de Sam Presti et d'OKC, tu vois. Et en fait, je pense que dans sa tête, il s'est dit, bah, je vais faire la même chose que Sam Presti, sauf que les mecs, ils ont le seul coup bien senti qu'ils ont eu, c'est Kate Cunningham.
Cunningham. Et tu prenais pas trop de risques. Mais le gros problème, c'est que le mec, il a un physique en carton, quoi.
Ouais.
Allez, Tony.
Ouais. Et avant de donner mon équipe, je me permets de répondre à Elio dans le chat. Les Spurs ne vont passer ni par playoff ni par play-in, mon ami. Ils sont bien derniers de l'Ouest, bien claqués. Il faudra leur donner une ou deux saisons en plus encore.
Voilà. On dit bonsoir à notre ami Elio qui nous suit toujours. Hein. Il est toujours fidèle avec nous. Donc,
très beau logo sur ta PP, Elio.
Ben c'est vrai qu'Elio, c'est plus le vélo et le football.
Non, mais c'est bien, tu vois. Il s'ouvre à d'autres horizons. C'est l'avantage de Radio Merguez. Moi je vais parler on reste pas loin des Knicks, hein, on va juste de l'autre côté vers le pont de Brooklyn. J'ai envie de parler des Nets parce que après j'avais hésité à parler d'équipes vraiment claquées là, tout ce qui est Wizards, Hornets, mais aucun intérêt, je pense.
Oui.
J'avais envie de parler des Nets parce que moi personnellement, je sais pas ce qu'en pensait le reste, j'avais pas vu les projections tout ça, mais quand j'avais vu la fin de saison dernière, après le trade, les trades, là, quand tous les mecs se sont barrés, que c'était catastrophique et que Michael Bridges est arrivé dans ce marasme bien nul. J'avais vraiment espoir que, franchement, ça arrache un play-in, voire peut-être un peu plus chiant. Peut-être une petite sixième place, un truc comme ça, parce qu'en fait, t'avais donc Michael Bridges qui nous a montré un truc, et à côté, t'avais plein de mecs qui sont pas incroyables, mais ils sont pas nuls. Des bons petits joueurs de NBA, Nick Claxton, etc. Puis après, t'as Cam Thomas, quand il a envie, t'en mets 40, tu vois. Sous Jacques Vaughn, bon là, qui depuis s'est fait virer, a été remplacé, et voilà. Mais j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait un truc où je me suis dit, j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc à faire, et en fait, pas du tout, quoi. Ça a été genre une horreur finie. Ils ont tradé Spencer Dinwiddie pour récupérer Dennis Schroeder, derrière l'autre fait couper, enfin, je sais pas. Donc, moi, les Nets, en fait, ouais, c'est juste, il y a de la déception où je me disais qu'il y a peut-être un début de projet où, en fait, tu repars pas si loin que ça au final en ayant tradé les trois monstres que t'avais. Et peut-être qu'avec quelques ajouts, etc., tu peux faire quelque chose. Et en fait, pas du tout. Et puis, le cas Ben Simmons, il est mais horrible à gérer parce que le mec, il a moins joué de matchs que nous en 3 ans et on n'est même pas pro, quoi. Donc, c'est assez problématique. Donc,
il est en bataille avec les frères Ball, hein, quand même, qui à eux deux ont joué 58 matchs en 2 ans.
Voilà, tu vois. Et y en a un qui n'a pas joué depuis 2 ans en plus. Hein.
Il a que 27 ans. Hein.
Ouais, mais non, mais c'est ça, mais il est pas vieux. Moi, en plus, je l'avais à Philadelphie, je me souviens d'une fin de saison où il est tout seul, parce que bien évidemment, Embiid est blessé. Il est tout seul, et si je me trompe pas, il les emmène sur 15 ou 16 victoires de suite en fin de saison. Ou un truc en mode en 17 matchs, 16 victoires, un truc comme ça. Lui tout seul, parce que Embiid n'est pas là. Et en fait, il fait une fin de saison hyper canon avec Philadelphie tout seul, et il est à la baguette de tout. Il est injouable. Et en fait, depuis ce bug contre Atlanta et son trade derrière, enfin, il est pour moi, il arrive pas. On voit peut-être des bribes vite fait quand il joue, mais en fait, je sais pas s'il a un problème physique. Je me demande si en fait, il a pas, il y a un vrai blocage mental qui va jusque dans son dos et qui l'empêche de bouger, quoi. C'est abusé. Mais
je pense surtout c'est qu'il a un problème, c'est qu'il l'a mis meneur, ce mec. Il est totalement anachronique, ouais. NBA actuelle. C'est un meneur qui ne sait pas jouer.
En fait, il devrait jouer 4. C'est comme les mecs qui ont la balle, en 4, quoi. Les LeBron, les Giannis, tout ça, ils tiennent la balle, mais sur le terrain, ils sont 4. Et en fait, je ne sais pas pourquoi il y a autant de cons qui se sont obstinés à le mettre en 1. Mmh. Alors oui, du coup, il va tellement vite qu'il peut défendre ton meneur, mais hyper tranquillement, parce qu'en plus, t'as un très bon défenseur, en plus, avec son physique et tout. Mais en fait, genre là, ça n'a aucun sens. Il faut le faire jouer en 4, il faut lui donner la balle. Évidemment, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que son shoot, le fait qu'il ait un shoot genre claqué, n'aide pas non plus. Mais en fait, pour moi, il y a un problème avec ce mec, parce qu'en fait, à la base, quand ils font les trades, etc., donc t'as Michael Bridges, qui est un numéro 2 plutôt bon, et qui en plus des deux côtés du terrain peut être efficace, mais à la base des bases, en termes de potentiel et tout, c'est Ben Simmons, normalement, qui est censé être le meilleur joueur de cette équipe si le mec est à 100%, mais en fait on sait même plus s'il est à ce niveau là quoi. En plus, non. Il a un contrat énorme.
Ouais, moi ils m'ont perdu, les Nets, quand ils ont tradé Curry. J'ai dit, ah ben non, j'aimais bien Seth Curry.
Ouais, mais ils ont viré plein de joueurs, donc c'est
vrai que c'était quand il y a l'équipe emmenée par Steve Nash où on se dit il y a quasiment de quoi faire deux équipes tellement il y a des bons joueurs dans tous les sens. Et c'est un choc monumental, quoi.
Ouais, même, tu vois, ils sont à un orteil de...
C'est ça. Ça fait partie des gros what if. Mais en vrai, si Kevin Durant avait une pointure un petit peu plus petite, où est-ce qu'il serait allé?
Attends, mais je vais encore répondre à Helio avant de finir. En fait, il s'est fait drafter par les Spurs parce qu'ils sont derniers claqués et les derniers ont le droit de prendre le meilleur joueur de la draft. Après, le système de draft, on peut pas te l'expliquer maintenant parce que ça va être un peu long, on va se faire tirer les oreilles par Richard. Mais je t'invite à te renseigner sur le système de draft sur Internet.
Ou alors on fera des petits épisodes avec Richard.
Ouais, les contrats américains, c'est les clubs qui décident et pas les joueurs.
C'est ça.
Dis-moi, TK.
Est-ce que je peux mettre un petit mot pour The Heat?
Bien sûr.
Oh, oui. Je trouve ça très drôle, tu vois, cette équipe de vieux. Je sais pas, pour moi, c'est une équipe de vieux. Je sais pas pourquoi. Mais c'est pas forcément le cas. Ils sont pas hyper vieux non plus, mais j'estime que c'est comme des vieux dans les vestiaires, tu vois.
Des briscards.
Tu vois, ils s'habillent tout lentement. Ils vont être là où, tu vois, pile au moment où il faut être là, ils vont être là. Et je pense qu'ils ont presque la même équipe que l'année dernière. Et ils ont vraiment surpris l'année dernière. Et ils ont, franchement, ça doit être un des meilleurs coachs actifs aujourd'hui, Spo. Oui. C'est un truc de ouf. Et en fait, c'est un des seules équipes pour moi qui a un vrai caractère, en fait, de caractère de bosseur, de travailleur, de méchant aussi, quelque part. Et ils ont vraiment cette carrière. Et tout le monde sait, si tu vas là-bas, tu vas travailler et tu vas gagner aussi. Et c'est quelque chose de super intéressant. Donc, je suis très curieux de voir est-ce qu'ils peuvent faire le surprise qu'ils ont pu faire l'année dernière. Parce que quand même, c'était inattendu quand même.
Ouais,
c'est pour ça que justement par rapport au hit ticket, c'est là où ça me déçoit un peu parce que l'année dernière, ils font une saison où justement ils sont quasiment 9e des play-in, je crois. Ils se qualifient.
Ils sont à deux doigts de sortir sur les deux matchs à chaque fois. C'est ça. Tu t'en souviens ou pas?
Et c'est ça. Et en fait, ils font un premier tour face à Milwaukee où ils vont les imploser en 4-1. Ils tapent les Knicks 4-2 et surtout ils éliminent en finale Boston. Mais cette année, pour moi, mais c'est pareil pour Dallas en fait, c'est ces équipes en fait où j'en attends plus en saison régulière. C'est-à-dire que pour moi, il faudrait au moins qu'ils aillent sur les quatre premières places, surtout à l'Est, où comme on le disait en fait. Je trouve qu'il y a une moins grosse densité au niveau des équipes et pouvoir justement aussi un peu plus. Parce que le problème, c'est que la finale de l'année dernière, le vrai problème en fait face à Denver, c'est qu'ils sont complètement cuits. C'est-à-dire que leur parcours qui s'est engendré, les a complètement carbonisés et en ayant, on va dire, un parcours entre guillemets un peu plus simple, c'est-à-dire en finissant, admettons, quatrième, tu te dis, tu as déjà ton premier tour chez toi, tu t'économises un peu d'énergie, et du coup, tu peux plus facilement, enfin, gérer les playoffs, tu ne gères pas tant que ça, mais je trouve que ça peut plus facilement. Là, ça a été, je trouve qu'en fait, ils ont fini cuitasse complètement.
Ouais, mais je pense que aussi, je pense que c'est grâce à Denver qui a perdu que 3 matchs dans tout leur ouais. Tu vois, c'est incroyable, ils ont perdu que 3 matchs.
Mais c'est vrai que je sais pas, moi je avec la saison, enfin la fin de saison l'année dernière, je pensais que ça irait un peu mieux, tu vois, sur cette saison-là. Et 6e, j'en attends plus, tu vois, par exemple là, j'ai regardé un peu j'ai pas vu tout le match, mais j'ai regardé des highlights face aux Warriors. Pourtant, je suis fan des Warriors, tu vois. Je trouve pas forcément extraordinairement bon. Je sais pas, il y a des fois, c'est pareil, c'est vraiment sur courant alternatif. Alors, est-ce qu'ils gèrent leur saison comme ça aussi, parce qu'ils ont un effectif un peu plus vieux et qu'ils savent qu'ils pourront pas tout donner, tu vois, sur une saison de 82 matchs et que le plus important, c'est les playoffs? Peut-être, hein. C'est aussi, peut-être.
Je pense qu'il y a aussi un côté de tiens, on s'épargne un peu, on garde un peu d'énergie, mais aussi je pense qu'il y a une question de confiance qui est énorme. On a battu tout le monde, hein, donc on peut le refaire, donc il y a pas de problème. Donc je pense qu'il y a un peu, peut-être ça va être contre leur faveur dans le sens que peut-être ils ont peut-être trop la grosse tête, qu'ils peuvent penser qu'ils peuvent tout faire. Mais je pense que c'est un tout petit peu ça, tu vois. C'est pour ça que je dis c'est une équipe un peu vieux qui dit on n'a pas besoin de faire des stretching, on arrive qu'on s'assifle, hein, on sort des vestiaires au dernier moment. Et j'ai l'impression que c'est cette équipe là, mais je suis intéressé de voir s'ils vont faire quelque chose.
Je suis exactement en fait dans le même cas que toi, tu vois, Ticket. Le vrai truc en fait, c'est que j'ai aussi cette impression, comme le pouvait le dire Derek, c'est qu'il y a des fois, tu as les équipes qui se disent ouais, c'est bon, voilà, on va gérer notre saison régulière, on va arriver sur les playoffs, on va foutre la machine et on va rouler sur tout le monde. Sauf que si tu n'as pas, en fait, quelque part, la confiance, les automatismes, le fond de jeu qui fait que, c'est pas parce que tu vas arriver en playoffs que tu vas forcément pouvoir faire une sorte de step-up au niveau de ton niveau. Et quelque part, la saison, même si on lui dit toujours, les playoffs, c'est très particulier, la saison régulière, c'est aussi là pour pouvoir emmagasiner de la confiance, du fond de jeu, des choses un peu comme ça, emmagasiner des situations qui sont totalement différentes et sur lesquelles, en fait, dans certaines situations de match, tu les auras tellement fait, en fait, pendant ton championnat de 82 matchs, que tu vas pouvoir réagir à, et voilà. C'est pas que, tu vois, c'est des choses que tu auras déjà travaillé. Et,
je pense que le chose qui va être intéressant pour moi aussi, c'est de voir le nouveau coiffeur de Jimmy Bucket.
C'est vrai que c'est toujours...
Mais lui, j'aimerais bien quand même pouvoir discuter un jour avec lui, parce que, tu vois, c'est qu'il a l'air d'être en même temps perché, mais en même temps, ça a l'air d'être quelqu'un qui a une vraie...
Il a un YouTube de ouf. Je vous assure, vous avez pas vu, c'est vraiment, il faut aller voir son YouTube, c'est un truc assez fou quand même. Et c'est du qualité aussi, il dépense de l'argent pour le faire. J'ai l'impression qu'il a un éditeur, un mec qui le suit, c'est assez cool.
Qu'il était HPI ou qu'il était, qu'il avait, je veux dire, c'est quelqu'un qui est quand même assez particulier et c'est, par contre, c'est vrai qu'il est rafraîchissant parce qu'au niveau, des choses très, très stéréotypées et très lisses de la NBA. Déjà, quand tu le vois arriver avec sa coupe, tu te dis, monsieur, t'aimes ou t'aimes pas. Mais là, tu te dis, monsieur, parce qu'arriver comme ça, garder, je ne sais pas s'il le fait, si c'est un prank, et s'il va le garder sur l'année, ou si c'est réellement ça, enfin, si c'est réellement quelque chose de sérieux chez lui, mais tu te dis, déjà, respect.
Bon, avec un nickname qui est Jimmy Panier, en gros, c'est quand même pas mal.
Non, mais en tout cas, moi, je suis assez confiant pour les pour le Heat, et je pense que cette année, ils vont même profiter du fait que Indiana glisse bien comme il faut vers le play-in, avec une.
Ah, ils sont à 2 victoires.
Ouais, une nette baisse, même pas. Ils sont à 1 victoire. Ils sont juste derrière, et ils bénéficient d'un calendrier très favorable, Miami.
Donc, et le 8, c'est tout le temps ça, de toute façon. Tout le temps
donc, à mon avis, ils vont finir 6e. On va avoir un alléchant New York-Miami.
Ça va être sympa, ça.
Premier tour. Pour moi, ça, ils montent progressivement, mais surtout qu'ils ont les joueurs pour. Ils ont l'entraîneur.
Même la saison de Bam Adebayo, elle est...
C'est ça. Bam plus Jimmy.
La saison de Bam Adebayo, elle est incroyable, sa saison. Jimmy Butler a été un peu blessé, tout ça, mais Bam Adebayo, il a...
Ouais. Mais c'est vrai que je te comprends, Richard, parce que on a vraiment on parle des fois de matchs de traînard où t'as une équipe qui suit à 2-3 points et qui finit par passer devant à la fin. Le Miami, c'est une équipe de traînard sur la saison où, ça végète et à la fin, ça monte pas mal et ça réussit à embêter les meilleurs, quoi. Donc, heureusement pour eux, pour Milwaukee et Boston, s'ils finissent 6e, ils les rencontreront que en demi-finale de conf et pas au premier tour. Et ça, c'est à mon avis, ils vont être bien contents.
Et pour finir avec cette équipe, si je peux, donc en fait, il me semble qu'ils ont Scary Terry maintenant, Terry Rozier, c'est bien ça?
Oui.
Donc en fait, c'est assez marrant parce que moi, donc c'est Thierry, mon nom, mais aux États-Unis, personne ne s'est prononcé Thierry, en fait, c'est impossible. On ne voit jamais personne, avant Thierry Henry, il n'y avait pas de Thierry, en fait, aux États-Unis. Ouais. Et donc personne n'arrivait à prononcer mon nom. Ma maman était française, donc c'est pour ça que j'avais ce nom-là. Et donc en fait, mon nom, pour tous mes potes, c'est Terry. Donc voilà, donc j'identifie pas mal avec Scary Terry, tu vois, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Terry déjà, et il n'y avait aucun Thierry à l'époque. Donc voilà, peut-être c'est pour de TK.
Bon, eh ben merci pour tout. Est-ce que vous avez une petite saucinette basket, une sorte de recommandation ou de choses qui vous ont amusé depuis la dernière fois? Allez, Thierry, vas-y.
J'ai une recommandation. D'ici quelques heures, il y aura UNC contre Alabama dans le March Madness. Donc, allez, vous regardez ça. Moi, je vais au lit, hein, mais vous pouvez aller regarder ou au moins regarder le match après, le replay.
Derek?
Alors, moi, c'est une merguez. J'en ai parlé au gars juste avant, c'est Michael Porter Jr. Les gens n'imaginent pas, mais il a un frère, mais qui apparemment a pas forcément inventé l'eau chaude. C'est-à-dire que c'est Il y a de fortes présomptions sur lui d'avoir participé à ce qu'on... Lui n'a pas parié, mais en fait, a fait parier ses amis, parce que sur le match, c'est hier ou avant-hier, il y a de... Sur la soirée, on peut parier sur les joueurs, sur des upper-under, sachant que est-ce qu'il va mettre plus ou moins tant de points, est-ce qu'il va prendre plus ou moins tant de rebonds. Et en fait, sur la soirée, c'est pas les superstars sur lesquels on a parié, c'est sur lui. C'est lui qui a réuni les plus grosses sommes d'argent sur les upper under au niveau des paris. Et comme par hasard, sur cette soirée-là, bah, il marque 2-3 points, il prend 2-3 rebonds, surtout qu'il a pas mal de minutes à Toronto, parce que justement, Toronto, c'est tellement, c'est tellement l'hécatombe, ça fait tellement jouer les joueurs qui jouent pas d'habitude qu'il a des minutes et donc il réussit à faire des choses. Et donc là, bah, le mec prétexte qu'il est malade ou enfin, qu'il est touché physiquement pour pas finir le match, comme par hasard. Et donc, bah, le lendemain, il n'en fallait pas plus pour que la NBA se penche sur son cas. Et je pense qu'on n'est pas forcément sûr de le revoir sur un parquet de NBA. Parce que c'est le genre de truc, la NBA ne plaisante pas. Bon, y a un autre joueur comme Kelly Oubre, à la fin de son match, il a un petit peu assaisonné les arbitres en les traitant de your bitch, hein, donc enfin bitch, parce que c'est pas une plage, c'est le nom gentil.
Autre chose.
Voilà. Donc à chacun des arbitres, il your bitch. Donc c'est rigolo de voir le truc comme ça, mais à mon avis lui il va prendre très très cher au niveau des amendes. Donc là encore plus sur ce genre de choses au niveau des paris, ça va chauffer pour son matricule.
Et c'est important, au lieu d'aller parier, gardez votre argent et offrez quelque chose à votre être bien aimé, hein, ou alors à votre chat si vous avez juste un
ou choix. À vous au pire, c'est pas grave, mais...
Ou à vous, profitez et n'allez pas parier. Vous perdez, hein, à chaque fois. De toute façon, à la fin, c'est le site de paris qui gagne. Donc voilà. Évitez ça. Mon petit Tony.
Alors, moi, je vais finir.
Une saucisse, une
merguez. Non, moi, j'ai une saucisse. J'ai un beau. Il y a un beau truc. Il y a. Dans un mois, on a la viewing party au Grand Rex des playoffs. Que nos amis Trash Talk font ça chaque année.
Et tu as des
malheureusement places. Non. Malheureusement non, mais
faudrait qu'on les contacte, ouais. Un peu, tu vois.
Non, mais après
c'est une sorte de partenariat.
J'ai essayé de choper des places, j'en ai pas eu. Bon, après c'est pas grave, mais c'est vrai. Ouais, mais je voulais en profiter.
2000 places qui partent en 5 minutes, hein. C'est pire que Taylor Swift.
Ouais, 2500 places qui partent en 5 minutes et je voulais juste moi parler de ça où ça part en 5 minutes et à chaque fois c'est une belle fête du basket, que ce soit les premières viewing parties qu'ils ont fait dans une salle à 100 places. Moi, je pense que j'avais fait toutes les viewing, sauf celles où ils ont agrandi les salles. J'ai jamais réussi à choper des places. mais je voulais, ouais, juste passer un petit message sur ça pour dire que voilà quoi, la commu NBA française est présente et que je pense que je suis content de voir qu'il y a un engouement comme ça et que c'est ce qui fait que du coup ça va nous amener Victor à Paris l'année prochaine et j'ai très hâte.
Très bien.
Tu commences de miser pour acheter ta place très cher.
Ah ouais, non, mais laisse tomber. J'hésite entre une nouvelle moto et une place pour le match. Je sais plus quoi faire. Hein.
C'est ça. Ou ton appartement.
Ouais.
Bon, ouais. Alors, je vais finir un peu sur déjà un petit coucou. Je vais faire une spéciale dédicace à quelqu'un qui nous écoute quelquefois. C'est le podcasteur de Sur la route encore, un très bon podcast musical sort tous les jeudis sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Deezer, Spotify. C'est une demi-heure de musique, je pense que vous devriez bien aimer. C'est à écouter généralement en allant au travail, c'est une fois par semaine. Donc un petit coucou à lui. Et puis moi, c'était la stat qui m'a fait mourir de rire, parce que je sens qu'on va en avoir tout au long de ces 10-15 prochaines années. C'est Victor Wembanyama qui a déjà contré depuis le début de son année. Et en fait, le nombre de contres est supérieur à
83 ou 86% des joueurs actuels en NBA.
Des joueurs actuels en NBA. Ah ouais. en une saison,
elle est pas finie, la
Victor Wembanyama a contré plus que 85% des joueurs de NBA qui ont déjà quand même pas mal de saisons derrière eux.
Et ouais.
Je pense qu'on imagine. Mais TK, il faudra qu'on fasse vraiment, une fois que les playoffs seront finis et tout ça, il faudra qu'on fasse une émission avec toi pour voir un peu si tu as des enfin pas des informations, mais ce que les Américains en fait voient en Victor. Tu vois ce que je veux dire, c'est que nous, au niveau de quelque part de la vision qu'on a, qui est très franco-française, on en avait parlé sur le dernier podcast, effectivement l'univers basket est toujours un peu ébahi de ce qu'il est capable de faire, mais je sais pas si on a une vraie ce qu'il est en train de réaliser aux États-Unis et comme ils le vivent en fait.
Je vais faire un meilleur recherche.
Et tout ça en 30 minutes de jeu.
Ouais.
Oui, bah oui.
Parce que sinon, c'est ça le truc. C'est qu'il est benché. C'est-à-dire que Popovic, il le couve comme une mère poule. Hein. C'est là, encore sur le dernier match, sur le starting five, il est le dernier en temps de jeu.
C'est une bonne chose.
Tranquille.
Après, c'est sûr
qu'ils n'ont rien à jouer.
Ça sert à rien. Mais oui, c'est vrai que 222 contre en 30 minutes de jeu. Ouais, exactement.
Et une saison qui n'est pas encore finie.
Il est à 29 minutes de moyenne sur la saison.
Ouais. Non, mais il n'est pas fini. Non, il fait que commencer.
Donc c'est pour ça, je pense qu'on va avoir encore de belles stats aussi grâce à Victor sur les mois et les années qui vont venir.
D'ailleurs, on en reparlera au prochain podcast, mais on va peut-être avoir le back-to-back avec un Français à nouveau first pick.
On reverra. Chaque chose en son temps.
Alors, en tout cas, les garçons, merci. Pardon. Je voulais juste dire merci beaucoup pour l'invite. Et c'était un plaisir. Et si vos écouteurs sont fans de rugby, ils peuvent aller regarder Pack de potes. Et voilà. Plaisir de parler.
Pack de potes.
Ouais, plaisir de parler ballon orange.
Et ton autre podcast aussi, un peu plus.
Ouais, j'ai un autre podcast sur le. Non, en fait, on continue. C'est sur le poids. Parce que moi, je suis ancien pilier. Donc, j'ai toujours quelques kilos à perdre. Donc, j'ai fait ça avec ma diététicienne. Elle s'appelle Fanny Cotin. Et franchement, c'est un belle découverte pour moi. Parce que c'était une occasion de parler de pourquoi perdre du poids et comment, etc. Et franchement, on a fait 2 saisons et demie. Et on est en train de faire le troisième en ce moment, et ça c'est sur l'alcool, ça c'est une découverte, donc j'ai fait 1 an sans alcool en ce moment, donc on est en train d'enregistrer en ce moment quels sont les effets d'aller 6 mois déjà, je suis à moitié mi-chemin, c'est la première fois que j'en parle d'ailleurs, mais oui, c'est super intéressant, donc ça c'est un peu plus léger.
Écoutez, alors franchement on aura beaucoup d'impatience. Je remercie Derek et Tony. Alors, le prochain rendez-vous au niveau du barbecue basket, ça sera à la fin des play-ins, donc à peu près dans 3 semaines. On avait vu, on fera un épisode sur les playoffs. On va essayer
de sortir le bracket radio.
Regardez nos bouboules de cristal et on va essayer de faire des pronostics. Ouais,
les gens, les Jean-Michel prédictions seront de sortie.
C'est ça, il ne faudra absolument pas nous écouter. Tiquet, si tu voudras venir, tu es l'invité. Franchement, tu es bienvenu. Et puis, je crois qu'à 1h43.
Ouais. Juste signaler que là, le podcast de ce soir, c'était le 299e de l'histoire de Radio Merguez, tout sport confondu. Et donc, si vous voulez écouter la 300e, c'est dimanche. C'est
avec Elio, je crois.
Ouais, c'est dimanche pour le barbecue vélo.
Allez, Elio, tu nous fais une belle 300e. Tu es sur notre flux. On te fait confiance. Messieurs, mesdames, continuez bien à écouter les podcasts et à bientôt.
À bientôt.
Bye bye. À plus.
Ciao.